Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Allez, on tousse tous d'un
toujours,
coup.
Toujours
allez,
hop.
Salut, c'est Clément.
Et salut, c'est Louis Petrouchka.
Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous, vous écoutez bien le son d'après. C'est un nouvel épisode spécial.
Oui.
Et je suis accompagné comme d'habitude de ma meilleure binôme, Louise Petrouchka.
Bonjour.
Et oui, comme je vous disais, on est ravis parce que c'est le retour du format invité.
Ouais.
Et on est d'autant plus content parce qu'aujourd'hui on reçoit Anaïs aka Anako. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Ça va?
Merci d'être là.
Merci à vous, je suis ravie d'être là.
Nous on est très contents de t'avoir.
Ouais, nous on est contents parce que ça fait un moment en fait qu'on souhaite te recevoir, on a plein de questions à te poser. Mais avant, du coup, pour les auditeurs
oui,
qui nous écoutent
et auditrices
qui ne te connaîtraient pas. Alors, dans la vie, tu es DJ résidente sur Rins. Tu es
tout
aussi programmatrice à la Machine du Moulin Rouge, qui est une salle parisienne, salle de club et de concert.
Ouais.
Tu es aussi membre du collectif Barbiturix, qui est du coup un collectif et média queer lesbien. C'est ça, je me trompe pas.
C'est ça.
Et tu es aussi co-créatrice de Pereo Supremo, qui est un collectif qui réunit musique et danse autour des esthétiques reggaeton. Ça fait beaucoup de choses.
Ça fait beaucoup de choses.
Ça va, on n'oublie rien.
Vous oubliez rien.
Ah, c'est bien, il y a déjà
on dort pas
faire.
Beaucoup la nuit.
Et ben, avant de commencer à du coup en savoir un peu plus sur toi et sur ton rapport à la musique, Louise. De notre
oui.
côté, pour les gens qui découvriraient le son d'après grâce à Anaïs,
ouais.
est-ce que tu peux un petit peu rappeler c'est quoi le concept du podcast?
Tout à fait, bien sûr, avec plaisir. Le son d'après, c'est un podcast de découverte musicale qui sort toutes les deux semaines le lundi et on partage nos kiffs musicaux du moment avec Clément en espérant alimenter un peu vos playlists. Donc d'habitude, on vient chacun avec deux artistes et aujourd'hui, on a demandé à Anaïs du coup de ramener deux morceaux d'artistes qu'elle kiffe et dont elle voudrait nous parler. Et de notre côté, on a chacun sélectionné un track pour lui présenter et voir s'il pourrait éventuellement se faire une place dans sa playlist. En plus, elle est DJ, donc ça tombe bien. On sait jamais, peut-être. On va te faire découvrir des trucs. Donc voilà, c'est ça le son d'après.
Et bah ouais, impeccable.
On est parti.
On peut commencer.
On commence.
Anaïs, c'est quoi le premier morceau du coup que t'as décidé de nous ramener aujourd'hui?
Alors le premier morceau que j'ai ramené, c'est Runaway Lover de Madonna. Énorme
Yay.
Track sorti dans les années 2000, même en 2000, pile.
Pile, ouais.
Pile, ouais.
Qui fait partie de l'album Music. Qui a quand même un peu révolutionné ma conception de la musique, voilà, de mon jeune âge.
Ouais.
Trop bien.
Donc en 2000, t'avais 8 ans et quelques, non,
non un peu
9.
Plus, j'ai 30 ans, ouais, c'est ça, c'était ça, ouais, 8 ans, incroyable. C'était mon premier CD.
Incroyable.
Ouais, ça c'est bien, ouais, ça j'aime bien cette
ça
anecdote.
Ça commence bien déjà.
CD. Ouais, ça,
c'est grave. Cool. Tu veux qu'on écoute?
Écoutons.
On écoute et après on en discute. On a woman, you didn't understand or care to know. You get your education from your lovers, but now there's just no place for you to go. It doesn't pay to be a runaway lover. Waouh. Ouais. Runaway Lover de Madonna. C'était le premier choix de Anaïs, Anako, dans le son d'après. Waouh.
Ouais, bah écoute, on commence déjà à réagir.
Ouais, je pense, vas-y, on réagissons. Ouais.
Ah ouais, bah, moi j'avais vraiment un souvenir, enfin je suis hyper marqué par la DA de l'époque, j'ai vraiment ce souvenir d'un album assez marquant de Madonna, mais clairement, à part peut-être les 2-3 tubes de l'époque, et là même je ne pense à un, c'est musique du coup, je pense que j'avais jamais vraiment écouté quoi. Ouais. Et je suis assez bluffé de ce que ça rend musicalement quoi. Déjà cette esthétique hyper électronique et hyper efficace comme ça, non ouais, je suis assez bluffé ouais. En fait, tu sais, ça du coup tu te dis ah ouais, quand même Madonna quoi. C'était quelqu'un quand
mais
même.
Il y a vraiment ce truc là. En fait, moi, c'est ce que je disais genre quand on commençait à écouter le morceau, j'ai dit mais en fait, je crois que j'ai jamais écouté cet album. Et je me souviens que moi j'ai l'album d'après. J'ai American Life et je l'ai vachement écouté et tout parce que c'était vraiment
extrêmement différent.
C'était un disque que j'avais quoi, donc j'écoutais vachement. Et donc du coup dans ma tête, Madonna, pas du tout musique électronique, parce que j'ai écouté cet album qui était quand même plutôt pop et du coup j'avoue que là tous les arrangements c'est électro de A à Z quoi. Ouais. Incroyable. Et toi tu découvres ça quand t'as 8 piges.
Exactement. En fait c'était du coup mon deuxième morceau préféré après Music bien évidemment. et en fait cet album je l'ai réécouté pendant le confinement. Parce que bien évidemment, on va tous chez nos parents et du coup, moi, je retrouve des trucs et tout. Et donc, je réécoute ce morceau et là, je fais genre « Ah ouais !» mais en fait, c'est incroyable. Mmh. Et en gros, cet album, il a été produit par deux personnes, donc William Orbit et Mirwais. Je ne sais pas si vous êtes...
Mirwais, ouais. Je connais deux noms.
Donc, Mirwais, en fait, c'était un... Bon, c'est toujours, hein, il est toujours en vie, il produit toujours. C'est un producteur, en fait, hyper, hyper reconnu dans les années 80. Il faisait partie du groupe Taxi Girl, qui du coup était voilà, à son apogée hein, dans les années 80 aussi. Et en fait, c'est vraiment un producteur de la French Touch. Donc, quand Madonna collabore avec ces deux personnes, bah, elle fait un album mais hyper électronique.
Ouais.
Et en fait, ce morceau, je le trouve mais tellement actuel. C'est un truc de dingue. Ouf. En fait, toutes les sonorités trans... Bon, je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais la trance quand même revient en force,
oui.
Que ce soit avec les esthétiques plus Dada Rude, plus ouais. Machina, etc. et Art Style, que dans la house en fait et la minimale. Donc il y a ça, et puis il y a ces sonorités drum and bass. Moi, quand je les ai réécoutées, j'étais là,
ouais.
Ok, c'est en fait, c'est délire. Incroyable.
Ouais.
Voilà. Donc,
ouais,
ce morceau,
c'est dingue
quoi.
De se dire que ça a 22 ans et. Et que moi, j'avoue, même si il y a des trucs dans la sonorité que tu sais, je place quand même à une certaine époque. Moi, là, je pense que ça aurait très bien pu figurer, par exemple, tu vois, dans la bande son d'un jeu FIFA de l'époque. Ouais. Je visualise totalement ça, tu vois, dans les menus,
ouais, ouais, ouais.
Ce type de son. Mais je trouve ça dingue, effectivement, de dire que vraiment ce côté très électro de l'époque,
ouais.
J'avais pas du tout. Ça donne vraiment envie d'écouter l'album, en fait, et
bah,
pas
ouf.
Que le
ouais, ouais, ouais,
et
ouais.
Pas que le single.
Convaincu à 100% en l'espace de, je pense, littéralement 30 secondes, j'étais en mode, bah, je vais écouter. Cet album après.
et puis c'est extrêmement bien produit quoi.
Ouais, ouais,
enfin, tout est équilibré, les trucs. Enfin c'est d'une richesse incroyable. Voilà.
Ouais, c'est trop bien.
Moi ce morceau quand je l'ai réécouté il m'a soufflé quoi. Et je pense qu'il a fait partie de effectivement enfin ma construction musicale forcément. Mm.
Ouais, c'est ce que j'allais dire du coup. C'est tes premiers souvenirs musicaux ou est-ce que tu as le souvenir de choses même antérieures à ça?
Bah, en fait, cette période-là, on va dire que c'est des années où, malgré moi, j'écoutais des choses assez électroniques. En fait, mon frère a 4 ans, 4-5 ans de plus que moi.
Mmh.
Et c'était l'époque où la Machina, le Bumping, etc. étaient à fond en Espagne.
Le quoi
et
le Bumping?
Bumping.
Bumping.
C'est,
ah,
en fait, c'est une variante de la dunk. Du coup, qui
ça
était vraiment.
Super.
Non, mais c'était. Voilà, je vous ferai écouter des morceaux, c'était incroyable. C'est très particulier, c'est vraiment avec cette bass dunk vraiment très, très, très okay. marquée. Et c'était le moment où ça cartonnait en Espagne. Mm. Et du coup, mon frère écoutait ça à Burn. Il y avait quelques clubs vraiment mythiques ouais. au Pays Basque espagnol, etc. Donc, c'est le même moment. Donc, en gros, moi, je me construis avec toutes ces choses-là. Donc, cette pop. Voilà, c'est.
Ouais. Donc pour les gens qui ne te connaissent pas, aussi, on peut te dire que tu as grandi en Espagne, que tu as grandi à Bilbao, c'est ça?
Tout à fait.
Voilà. Donc ouais. Ça explique la maquina et le.
Ouais, parce que ce n'est pas forcément des choses, je pense, que. On va dire les gens de notre génération ont écouté quand tu grandis en France, quoi.
Non, clairement. Et puis voilà, c'est les années 90 en Espagne, c'est assez particulier. Ouais. On est encore dans un peu une émulation, quand même, dans les clubs, dans la vie nocturne, etc. Donc.
Ouais, voilà. C'est ça. Parce que moi, ma sœur, elle a 7 ans plus que moi, par exemple, elle a écouté System of a Down, donc voilà, chacun ses rêves derrière, tu vois.
On n'a pas eu les mêmes écoutes derrière les murs de nos grands frères ou nos grandes sœurs.
Exactement, ouais, c'est vrai. Ok, et du coup, à l'époque, tes parents, ils sont un peu dans la musique ou pas trop? C'est vraiment ton frère qui est un peu directeur de tes écoutes musicales de l'époque?
Ouais, après, mes parents écoutaient beaucoup de musique, mais voilà, ma mère, elle écoute Simon & Garfunkel. Et mon père, il écoute U2. Mmh. Mais U2 aussi influence un peu
c'est vrai, hein.
dans cette vibe d'innovation un petit peu dans la prod de beaucoup de morceaux. Donc voilà. Mais ouais, c'est surtout mon frère qui a vraiment marqué tout ça, quoi. Ouais. C'est clair. Et après, ça s'est construit avec ça, avec les Essential Mix à l'époque, genre de Tiësto dans les années, pareil, 2001-2002.
Ah, toutes ces compiles là, un
ouais,
peu.
Ouais. Mmh. Et pareil, très trans au final, tu vois. Voilà.
Ouais. Ah, c'est marrant. Du coup, t'as construit un peu tout ça, genre en écoutant un peu ton frère, ou est-ce que genre t'allais vraiment chercher des trucs après derrière de ton côté
Et ben j'allais chercher des trucs aussi parce que en fait il y avait des émissions donc à la radio un peu pop espagnol qui s'appelle Los 40 principales, ça veut dire les 40 principaux, donc c'est les 40 hits,
top 40,
quoi. Il y avait une émission tous les samedis soirs, en gros, qui s'appelait World Dance Music. Et donc, en fait, ça reprenait vraiment des enregistrements genre de Ibiza, mais pareil, tu vois, des années 90, donc les White Sensation à l'époque et tout, okay. David Guetta. Et du coup, bah, c'était de la house music des 90s, quoi, donc du Kerry Chandler, des choses comme ça, après des choses aussi un peu plus tech house par la suite, mais c'est toute cette culture-là qui s'est vraiment mélangée et qui a fait un truc, voilà, qui a fait que j'ai eu envie d'être DJ depuis mes 12 ans, quoi.
Oui, c'est ça.
Mais moi, c'est ça, tu vois, en écoutant le morceau de Madonna, je me suis dit, en fait, c'est assez fou de se dire que, tu vois, ça, plus ou moins, ça part de quelque chose, d'un morceau pop comme ça, fait par Madonna, et que des années plus tard, ça donne envie d'être DJ, ou en tout cas, ça, certainement, ça lance dans une direction, quoi. Ça, c'est quand même assez fou, quoi.
Mais après, c'est trop drôle, parce que quand j'avais de mes 8 à mes 12 ans, en fait, dès que j'écoutais beaucoup, beaucoup de musique, quoi, pour moi, c'était vraiment mon safe space, c'était m'enfermer dans ma chambre avec et mes CD enregistrés, machin. On écoutait beaucoup avec mon frère, du coup. On avait nos petits baladeurs CD, etc. Et en fait, genre, dès que j'écoutais ces trucs-là, genre, je baissais les rideaux, j'étais là, genre, je mettais une lampe un peu en mode comme ça, où j'avais un peu des couleurs et tout. Ouais. Et je te jure, j'étais comme dans mon mini club, mais sans savoir ce qu'est un club. Quoi,
ouais,
t'as 10 ans, mais c'est toujours attiré par ce truc, donc voilà, c'est rigolo.
Trop marrant. Et du coup, tu dis à 12 ans, j'avais envie de DJ, c'est quoi comment ça arrive dans ton crâne en fait à l'époque? Est-ce que c'est parce que justement t'es à fond sur les Essential Mix, etc., et tu te dis genre c'est ça mes modèles?
Ouais, c'est un peu ça, clairement. Et puis après, c'était vraiment une envie de ah, mais j'écoute ça, et en fait, bah, j'aimerais trop pouvoir créer moi-même ça. En fait, créer moi-même ce moment de voilà, et de voir 2-3 vidéos à l'époque, MSN, YouTube commençait, et du coup voilà, t'avais quelques trucs qui arrivaient comme ça, mais ouais, c'est et à 14 ans, tu vois, genre je vois pour la première fois un DJ à l'anniversaire d'une copine, tu vois, où il y avait un mec qui mixait, tu vois, j'étais là, tu veux pas m'apprendre?
Promis.
Non.
D'accord. Ah ouais, il a dit non.
Bah en même temps, il était en train de mixer, tu vois.
C'était pas le moment, on va dire.
Ouais, en vrai, moi, ça m'est arrivé de faire des anniversaires en tant que DJ, et il y a des petits, ils sont là, ils regardent, t'es en mode, bah là, t'appuies sur le bouton et ça me plaît, tu vois.
Ouais,
tu
ouais,
fais
ouais.
Juste ça, mais.
Il était stressé, il était concentré, tu vois, et là.
Non, mais tu vois, lui, il devait avoir genre 15-16 ans, et moi, j'avais 14 ans, j'arrivais en mode, genre, tu veux pas me montrer comment on fait? Bah, normal, tu vois.
Ouais,
mais voilà, en tout cas. Voilà.
Et du coup, comment. De cette idée, tu passes à l'action derrière?
Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, en gros, bah, tout mon lycée, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique, etc. Après, arrive le moment où je pars faire mes études, donc je pars un peu. En gros, j'ai fini mon lycée en France. Donc, j'étais interne et je rentrais, etc. Donc, ça aussi, ça a alimenté, en fait, cette envie d'aller vers la musique. Et à Bilbao, clairement, il y avait rien. Enfin, il y avait genre deux clubs et c'était terrible et il y avait pas de teuf. Et une fois tous les 36 mois, t'avais Carl Craig qui venait jouer, mais enfin voilà quoi, c'était tout. Et la salle, elle était vide et tout le monde était dans la salle reggaeton, tu vois. Mais bon, voilà, normal, on est à Bilbao.
Ouais.
Mais du coup, après, je vais à Bordeaux et là, vraiment, en gros, Liveboat ouvre. Un an après que je sois à Bordeaux.
Ouais, je... Salle mythique de Bordeaux pour les gens qui
connaissent. Oui, voilà. Donc, c'est une salle du coup qui a maintenant bientôt 10 ans ou déjà 10 ans. Et je passais littéralement mes week-ends là-bas et au 400 à l'époque. Il y a un autre club qui a fermé il y a bien longtemps. Mais en fait, c'était mes devoirs, quoi. Genre, en gros, je sortais et je faisais des reviews de tout ce que je voyais. Je gardais les flyers, etc. Enfin,
et voilà. Tu ça dans de ton côté.
Ouais, j'avais des carnets. Pareil, pendant le confinement, je les ai retrouvés.
Mais trop bien.
Voilà, très drôle. Et du coup, en fait, en parallèle, bah, je faisais des playlists sur YouTube. Genre, je faisais des playlists mix, chill, mix, up, des trucs comme ça, quoi. Sûr. Voilà.
Donc ça, c'était au lycée.
Ça, c'était juste après le lycée, ouais. Ok. Genre mes premières années d'études quand je suis partie à Bordeaux.
Okay.
Voilà, et un jour, donc je décide de m'acheter des platines vinyles sur Le Bon Coin. J'achète des TT200 Newmark. Je me souviens, le tout m'avait coûté genre 250€. Et voilà, et genre j'achète 10 scuds qui ont fini rayés jusqu'à la mort.
En mode, voilà. Ouais, c'est ça, vraiment platine.
Ouais, j'ai appris vraiment à jouer, pas du tout scratch, mais vraiment apprendre à jouer vinyle. Oui. Okay. Voilà, c'était des platines extrêmement compliquées. Enfin, en fait, le plateau, tu dis à tout le monde, était T200 Newmark. Enfin, en fait, le plateau, il est pas stable. Donc, en fait, le disque se décale. Donc, c'était le meilleur apprentissage pour apprendre à caler des disques et à corriger tes morceaux.
À la dure, quoi.
Ah ouais.
Ouais.
Donc, voilà, j'ai beaucoup joué pour les afters de mes potes.
Ok, donc ça joue à l'oreille, au casque, en train d'essayer de savoir quel BPM fait chaque disque et tout.
Tout à fait.
Ok. Voilà. Et du coup, t'as passé des heures sur tes disques à te dire, ok, ça fait tel BPM, à noter sur des petites fiches comme plein de DJ.
Ouais, en gros, bah, au début, je faisais pas trop ça, mais c'était plus vraiment apprendre à connaître mes morceaux et les jouer, et surtout apprendre à jouer. En fait, moi, j'ai fait de la musique, donc j'étais assez bonne en beat match, on va dire, d'oreille, mais après, j'arrivais pas à faire mes transitions.
Attends, je fais un petit point, beat match, c'est juste mettre les morceaux
au même
rythme. Voilà.
Ouais, c'est ça, au même rythme.
Pour les gens qui
nous écoutent. Tout à fait. Et voilà, et en fait, après, j'étais nulle en transition. Voilà, à chaque fois que je faisais mes transitions, j'étais là, mais c'est pas bien. Et ça m'a mis énormément de temps à vraiment venir, tu vois, genre voir comment tu vas mettre ta patte, c'est quoi ton style de transition.
Ouais.
Enfin, ça, c'est le plus difficile pour un DJ. En tout cas, pour moi, ça a été le plus gros apprentissage.
Ok.
Voilà.
Et là, à ce moment-là, là, quand tu as tes platines, tu commences du coup à mixer un peu pour tes potes et pour toi, tu as déjà l'ambition à ce moment-là que tu veux en faire ton métier? Ou c'est, voilà, c'est à côté, c'est plus comme une passion ou quelque chose que tu développes
En fait, à l'époque, il n'y avait aucun modèle, tu vois, féminin. Il y avait genre Hélène Alien de loin et Stéphie, tu vois, en tout cas qui passait à Liveboat un petit peu et tout.
Ouais.
Mais dans ma tête, déjà, je me disais pas du tout, j'étais incapable de me dire genre artiste ou DJ. Je disais genre oui, je mixouille, mais
comme plein de meufs
qui commencent. Hein,
qui commencent et qui disent qu'elles sont bébés DJ.
Ouais, ou qu'elles mixent pas, mais qu'elles mixent un petit peu, mais genre elles ont honte de le dire, elles regardent leurs pieds, tu vois. J'ai eu encore un exemple ce week-end à la machine.
Ah
et ouais, j'étais là, non, tu mixes. Dis que tu mixes, regarde-moi dans les yeux. Regarde-toi. Non, mais et voilà. Et en fait, du coup, j'avais aucune idée de ce que je voulais en faire. En tout cas, je savais que c'était ma passion et que je touchais à un but, tu vois, dont je rêvais depuis des années. Mais en aucun cas, je me dis, ouais, je vais grave faire ça, je vais gagner de l'argent grâce à ça, etc. Pas du tout. Mais y avait vraiment un truc, j'engrangeais ma culture. Enfin, c'était vraiment une passion. Et pour moi, c'était hyper important de me former, de comprendre les différents courants de house music, de comprendre l'origine de la musique électronique. Parce qu'au final, ce que je venais était très, très différent. Mais du coup, de comprendre tout ce qui est derrière, enfin, c'était passionnant. C'était des années hyper, hyper, hyper riches, quoi.
Ouais, voilà. C'est ça, où t'engranges de la culture, du savoir, et t'as l'impression d'être vraiment au bon endroit, quoi.
Ouais, grave. Mais après, vraiment, il y avait tellement aucune meuf DJ que moi je me disais, bah non, bah c'est un kiff, et voilà, et je fais ça avec mes potes, mais.
Oui, c'est ça, aux afters, ça suffit un peu, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis après, franchement, à l'époque, honnêtement, il y a pas beaucoup de gens qui te disent en mode ouais, vas-y et tout, tu veux.
Ouais, bien sûr.
Mine de rien, c'était les années 2010, c'était pas la folie pour les meufs qui jouaient.
Et parce qu'à ce moment, en parallèle, du coup, tu fais quoi ? T'es dans les études, du coup ?
Ouais, c'est ça. Donc
et
en parallèle.
Tu fais quoi comme genre d'études ?
Je fais de la communication.
D'accord,
en gros.
Donc un peu
bateau. Et en fait, après, j'ai passé une année à Londres. J'ai pris une année de césure et je suis allée à Londres. Et en fait, là, ça a tout switché dans la manière de percevoir la musique, de me percevoir en tant que DJ ou artiste. C'est-à-dire que, en fait, là-bas, il y a une normalisation du fait de jouer, d'être une meuf ou pas une meuf, ou juste de kiffer. Enfin, la culture musicale là-bas est telle que, en fait, il n'y a pas de question. Et puis, bref, culture anglaise, quoi. Tu vois, il n'y a pas de truc de légitimité comme on a en France, même par rapport au travail ou à la réussite ou à quoi que ce soit. En fait, juste tu fais et c'est cool et tout le monde fait beaucoup.
Ouais.
Donc, t'as juste ce côté-là. Et du coup, j'ai vécu là-bas un an, je me souviens. Et en gros, je suis rentrée de Londres faire ma première date en club. Et c'est grâce à ça, en tout cas, que j'ai pu rentrer. Et je me suis dit en mode, ouais, j'y vais, tu vois. Je vois plein de gens autour de moi.
C'est possible, quoi.
Je suis tombée, en fait, dans une coloc où ils étaient tous DJ. Genre, par hasard, vraiment, il y avait un studio de musique, il y avait des platines partout. C'était une grande warehouse avec des unités d'appartements et tout. Et on était tous tout le temps en train de faire des teufs ensemble. Mmh. Et c'est là que je me suis dit, bah non, c'est OK, c'est normal. Tu vois, il n'y a pas de problème de légitimité à avoir. Et je suis rentrée et c'est la première fois où je me suis qualifiée, genre, ouais, je suis artiste, tu vois. Mmh. Je propose quelque chose, en tout cas. Voilà, et c'est vraiment grâce à l'Angleterre. Et après, toute la culture, briquet, drum and bass, techno qui arrive de là,
m'a
influencé aussi.
Ouais.
J'étais très house music quand j'ai commencé à jouer. Ouais.
Et du coup, justement, tu dis mon premier club et tout, tu te souviens de la première date où tu as joué en club et genre où c'était et comment ça s'est passé, comment tu te sentais et tout ?
C'était à l'Hérétique Club à Bordeaux. Donc c'est une cave, en gros, qui a fermé malheureusement après le confinement. Pendant le confinement, c'était un club associatif, donc vraiment un bar en haut, une cave en bas, mais le son était un peu crado, mais tu vois, hyper bas de plafond, donc quand même hyper englobant et tout, 200 personnes, et la vibe était folle. Du coup, en fait, j'ai commencé à organiser des teufs avec des copains, et en gros, je jouais en mode warm-up, genre je joue à ma teuf, voilà quoi.
Ouais.
Et du coup, je me souviens que c'était extrêmement stressant. Enfin, en fait, j'y allais, tu vois. Mais je mettais des rampins, tu vois. J'étais là, genre, bon, c'est pas grave, j'y vais. Mes transitions, elles étaient pas ouf.
Ouais, c'est pas grave.
C'est la vie, quoi, tu vois.
Parce que je dis toujours, il y a trop de gens avec qui je parle du métier de DJ et tout. Et je dis, mais en fait, si la Selecta, elle est bonne, en vrai, les transitions, c'est pas si grave, tu vois. Genre,
c'est sûr.
Si toi, tu l'entends, tous les autres DJ vont entendre et vont dire, ah. Mais. En vrai, si les gens ils kiffent le son qui arrive derrière, c'est cool, tu vois.
Voilà.
C'est ce que j'essaye de dire à toutes les meufs qui se lancent, tu sais, genre, qui me disent non, mais j'arrive pas à ma transition à les mauvaises et tout. Je suis en mode, on s'en fout si le morceau il est bon derrière. C'est
clairement, clairement. Et puis, du coup, bah, en fait, c'était un mauvais moment, entre guillemets. Là, oh putain. Et puis, très dur avec moi-même, toujours. Donc, tu sais que tu pouvais faire mieux, mais les retours étaient toujours cool. Et c'était tellement un défi, tu vois, à chaque fois. Et t'apprends, en fait, à chaque fois que tu joues, même encore aujourd'hui, à chaque fois que tu joues, t'apprends.
Bien
tu vois, tu te dis, bon, OK, c'est quoi le petit tricks que je peux essayer de mettre maintenant ou pas. Et en fait, voilà.
Ouais, c'est donc, ça, c'est de l'entraînement perpétuel, en fait.
Exactement.
C'est juste.
Et c'est ça qui m'a plu, tu vois, c'est qu'on m'a toujours demandé si je voulais produire. Et en gros, moi, vraiment. Dès les premiers instants, vraiment l'art du DJing m'a toujours fasciné en fait. C'est vraiment ce truc de qu'est-ce que tu crées, comment tu racontes une histoire, comment tu le transmets aux gens. En fait, en soi, c'est tellement un truc en soi à part entière que bah en fait déjà il y a tellement à faire.
Ouais.
Bon, à part le temps bien évidemment qui nous manque, mais j'ai jamais ressenti le besoin en tout cas de produire.
Mais c'est intéressant que tu parles de créer parce que tu vois, je pense, quand on est un petit peu plus extérieur à ce milieu-là, on se rend peut-être pas forcément compte que passer un morceau sur un autre morceau sur un autre morceau, que ça peut être de la création en soi.
Ouais.
Et que tu sais, on associe la production, c'est-à-dire créer de la musique, c'est ça, entre guillemets, ça serait ça, la vraie création.
Création.
Alors que, effectivement, dans ce travail de transition, de Selecta, en soi, déjà, il y a un vrai taf de création et je comprends du coup ce que tu veux dire sur... voilà, déjà, la création, elle est là, en fait. Elle n'est pas nécessairement que quand dans...
Elle n'est pas forcément dans la création de musique, mais dans la mise en place des différentes idées qui mènent à faire un mix, en fait.
Tout à fait. Et puis un bon producteur n'est pas forcément un bon DJ, et un bon DJ n'est pas un bon producteur.
C'est
vraiment.
C'est pas les mêmes métiers.
Ouais. Aujourd'hui, bien évidemment, dans notre milieu, bah, en fait, si tu produis, tu vas avoir des propositions de dates. Et si tu es DJ, bah, pour continuer à grandir, on va dire, il faut que tu produises. C'est vraiment un truc qui est censé aller de pair. Et c'est pas forcément vrai. Et aujourd'hui, il y a des exemples qui le prouvent, comme Jen Fitz, qui est une DJ incroyable et qui a réussi à faire sa carrière en étant DJ. Ouais. Et c'est génial.
Et qui a jamais produit du coup.
Non.
Ok. Moi, je voudrais qu'on arrive un peu à comment est-ce que tu arrives à la machine en tant que programmatrice. Alors, je sais que tu as bossé à la prod avant, donc à la production. Est-ce que déjà, on peut expliquer dans le milieu de la fête et du spectacle vivant ce que ça veut dire de bosser à la prod ?
Bien sûr. Alors, la prod, c'est vraiment s'occuper de tout ce qui est logistique. En fait, tu es vraiment le chef d'orchestre de tout ce qui se passe. Donc, c'est aussi la gestion budgétaire, la gestion de caler combien de personnes doivent travailler sur tel poste, etc.
Autant la technique, artistique.
Voilà. C'est vraiment technique, logistique, accueil aussi des artistes. Donc, vraiment mettre tout ça en place.
Et comment déjà, même t'en arrives à te lancer vraiment dans les métiers musicaux, parce que c'est vrai que du coup, a priori, tu fais de la com. Comment tu décides, enfin, j'imagine qu'il doit quand même y avoir un saut pour aller vers ces métiers-là, ou ça s'est fait assez naturellement via tes études ?
Bah, en fait, c'est assez fait naturellement. En gros, moi, dès mes 13 ans, j'ai fait du bénévolat dans des festivals de musique. À l'époque, c'était de la musique folklorique, traditionnelle. Et du coup, c'était trop bien parce que c'était dans le petit village à côté de chez moi. Mmh. On accueillait des groupes du monde entier de folklore international. Ouais. Donc, c'était ouf. Et cette expérience, elle m'a fait vraiment capter que je voulais travailler dans l'événementiel et dans le live, quoi. Donc, quand j'ai fait de la com, je suis très vite allée vers des stages en agence événementielle. Et quand je suis partie à Paris continuer mes études, en fait, je suis arrivée à la Recyclerie, donc qui est pas loin d'ici, mais qui, du coup, fait partie du groupe qui gère la machine. Donc c'est Signoco. Donc le groupe gère la Recyclerie, le Pavillon des Canaux, la Cité Fertile, le Bar à Bulles et la machine du Moulin Rouge.
Plein de lieux de Paris.
Ouais, c'est ça, plein d'endroits bien cool, je crois, plutôt globalement assez cool de Panama.
Mais ça s'est fait par hasard. Tu vois, au début, j'étais arrivée à Paris, j'étais là, ok, je vais travailler en agence dans le 16 et je vais faire de l'événementiel privé, quoi. Et la musique, ce sera à côté parce que j'avais toujours mes teufs, j'avais toujours l'activité de DJ. Et en fait, après ce stage à la Recyclerie, le boss de la Recyclerie m'a dit non, attends, tu vas pas partir en agence là. Il y a Peggy qui cherche un stagiaire ou une stagiaire. Tu vas la rencontrer. Donc Peggy, c'est l'ancienne programmatrice de la machine qui se lance à l'époque dans une nouvelle activité de programmation dans les lieux, et qui du coup est sollicitée par Warner pour monter une boîte de booking spécialisée en musique électronique. Donc en gros, moi j'arrive vraiment dans un contexte
parfait,
les alignements de planètes. Parfait. Et en fait, du coup, j'ai commencé à bosser avec elle et l'entretien s'est extrêmement mal passé. Elle s'est dit, mais qui est cette personne? Parce que je ne sais pas me vendre, je suis extrêmement mauvaise en entretien, il faut le savoir, vraiment.
Ouais.
J'ai dû passer 2 entretiens dans ma vie, les 2 étaient terribles. Ils se sont dit, ouais, bon, à l'apprendre quand même, mais c'est pas la folie, quoi.
Bah, s'ils se sont dit qu'ils allaient prendre, c'est qu'il y avait une bonne raison, je pense.
Oui, parce qu'ils avaient oui, mais si, t'inquiète, des recommandations, tu vois,
ça,
à le faire. Mais c'est terrible. Je suis toujours très blasée en entretien, j'ai un peu peur, je suis. Bon, bref. Et du coup, énorme aventure avec Peggy, qui continue du coup chez Div Productions.
Okay.
Et en fait, là-bas, je fais vraiment donc l'événementiel, la prod, la musique, tout se rejoint. Voilà. Et c'était incroyable. Donc, j'ai fait de la prod. Et après, j'étais chef de projet. Et après, j'ai fini en booking. Donc, en gros, je suis restée 4 ans chez Diff, où on a monté des projets de live. Donc, apprendre à faire, du coup, à produire des lives. Donc, c'est-à-dire quand un artiste vient voir un producteur de spectacle.
Ouais.
C'est très spécifique à la France, d'ailleurs, ce fonctionnement. Ouais. Mais en gros, il vient voir un producteur de spectacle, il a un album, et il dit, bah, il faut qu'on fasse du live.
Voilà.
Comment on le fait? Et toi, tu l'accompagnes dans toute la démarche de trouver une créa. Tu vas voir quoi comme light, vidéo, tu vas voir combien de personnes sur scène, passer des castings pour trouver les musiciens, et c'était passionnant. Et du coup, moi je faisais beaucoup de gestion de projet à cette époque-là, donc je gérais tous les budgets de tournée et tout, je me renseignais sur en gros, si tu pars dans tel pays, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir 55% de taxes, tu vois. Enfin, ouais, c'est des trucs super techniques, mais qui m'ont trop passionné, qui continuent à passionner aujourd'hui, vu que
oui,
je le mets en application,
de...
quoi.
Tu t'ouvres une vision à 360 un petit peu du monde de la musique, de la fête, du concert et tout.
Grave. Et puis surtout, j'ai pu partir. On est parti vraiment à Sonar avec ce. Enfin, voilà, on a vraiment pu voyager avec ces artistes et c'était ouf, quoi.
Ouais, Sonar, qui est du coup un gros festival à Barcelone, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça.
Qui a 30 ans maintenant, quoi.
Ouais.
Un monument.
Une institution,
Ouf. Mastodonte.
Ouais.
Et bah écoute. On va s'arrêter pour cette première partie, on va passer au son d'après. Et du coup, pour le son d'après, bah, c'est à mon tour. Mais avant, du coup, avant de vous présenter l'artiste que j'ai décidé de ramener aujourd'hui, justement, j'avais envie qu'on fasse tranquillement la transition vers ton métier de programmatrice. Ça consiste en quoi exactement ton métier de programmatrice au quotidien? Donc là, actuellement, tu travailles comme programmatrice à la Machine du Moulin Rouge.
Qui est une salle de concert, un club, un bar, parce qu'il y a le bar à bulles en haut. Mais donc toi, tu gères la programmation club et concerts ou pas?
Je gère la programmation club et au-delà de ça, je gère, on va dire, la direction artistique du lieu dans sa globalité.
Ok.
Avec les événements culturels, parce qu'on a toute une programmation d'événements culturels gratuits et voilà.
Et du coup, le métier de programmatrice, ça consiste en quoi exactement?
Alors, le métier de programmatrice, c'est vraiment se tenir au courant de un peu tous les courants, de ce qui se fait au niveau local, international, trouver des nouvelles idées, de grilles de programmation, de comment tu vas créer une direction artistique qui va se démarquer, qui va être forte, qui va créer quelque chose. Moi, j'ai vraiment cette volonté de créer une communauté à la Machine et vraiment voir comment on met ça en place. Comment, en mettant en place des collaborations avec des labels, des artistes, tu crées des ponts et t'essaies de créer vraiment un moment où il se passe des choses pour le public. Où c'est pas juste une soirée lambda où tu vas écouter 6 heures de son, pareil. T'essaies de créer l'expérience, en gros, je dirais.
Ok. Mais du coup, derrière, ça implique de choisir, j'imagine, tout un tas, enfin, de faire toute une sélecta de gens que t'as repéré un peu en amont et que tu décides de programmer en fonction de différents événements.
Ouais, c'est ça. En gros, à la Machine, on a un fonctionnement qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'on a des résidents au club, des collectifs résidents. On n'a pas d'artistes résidents, mais en gros, mon rôle, c'est de choisir les collectifs résidents. Et puis après, on a des soirées maison. Donc là, on produit vraiment tout de A à Z.
Okay.
Et ce sont les soirées Quartier Rouge et les soirées Rectangang Fusion. Et là, vraiment, c'est choisir le plateau, gérer toute la promo avec l'équipe de communication de la Machine, vraiment établir une stratégie. Et donc, du coup, t'as différents niveaux. T'as les niveaux où tu gères une date, t'as les niveaux où tu gères une saison. Donc, il y a différentes temporalités. Et voilà, et en gros, il y a aussi quand même un rôle de chef d'orchestre sur la mise en place de tout ça. Voilà.
Et on est d'accord, parce que tu parles de collectif, tout ça, vous êtes aussi dans la démarche de temps en temps, tiens, telle personne, parce que j'aime bien ce qui est fait, ou pas, d'ailleurs, ça c'est une des questions que j'aurai un peu plus tard, mais tiens, telle personne, on la contacte, ou c'est eux qui te contactent directement, c'est comment ça fonctionne?
Alors, il y a les deux. Il y a vraiment... on a pas mal de gens qui nous demandent effectivement si la salle est dispo, etc. Sur la saison, on va dire, de septembre à juin, c'est assez compliqué parce qu'il y a des collectifs historiques qui sont là depuis près de 10 ans. Mais après, on essaie de mettre des nouveaux collectifs. En général, c'est vrai que c'est quand même nous qui les choisissons, qui allons vers eux et vers eux-le. Et on met ça en place, en gros, sur de 2 à 4 dates par an. C'est un collectif résident à la Machine aujourd'hui, c'est un peu ça. Et après, il y a un certain nombre de choses à respecter au niveau de la DA. En gros, moi, je valide les plateaux qu'ils font, je valide leur choix artistique, ou je le fais avec eux, limite. En fait, ça peut changer
ça peut
de fonctionnement.
Commun,
ouais, exactement. Mais en tout cas, on essaye de faire des choses en bonne intelligence. C'est-à-dire qu'on ne va pas programmer quelqu'un qui va passer dans 3 mois avec un autre collectif. Donc... il faut mettre un petit peu tout ça en commun et c'est hyper intéressant. C'est toujours et puis c'est chouette de travailler avec autant de personnes différentes, des esthétiques musicales différentes et beaucoup de collectifs locaux au final. En gros, bon, on en parlera peut-être un petit peu plus tard de la direction que ça prend exactement.
Ouais.
Sinon, je vais m'étaler. Je vais...
Alors moi, du coup, pour ta venue, pour l'artiste que j'ai décidé que je devais choisir aujourd'hui, je me suis dit que justement, j'avais envie de ramener quelqu'un qui serait susceptible d'ambiancer le club. Sauf que moi, c'est pas forcément les sons que j'écoute le plus, on va dire, au quotidien. En tout cas, c'est pas le type de sonorité, on va dire, où je suis le plus digger. Et puis, en fait, est arrivé un peu comme par magie, comme ça, un choix qui s'est imposé de lui-même, d'une artiste que j'ai découvert il y a quelques semaines. C'est une DJ et productrice de 21 ans, si je dis pas de bêtises, et du nom de Lisa. Tu connais ?
Oui.
Ça dit quelque chose, ouais. Et ben alors Lisa, elle est née et a grandi au Brésil et vit désormais, si je dis pas de bêtises, aux Pays-Bas. Elle a commencé très tôt puisque à 15 ans, elle commence à prendre un peu la musique au sérieux et se met à apprendre à utiliser Logic via des tutos YouTube. Et dès l'âge de 16 ans, elle se met à mixer un peu dans certains clubs à Amsterdam. Initialement, son envie était un peu de provoquer une rencontre entre un hip-hop plutôt radical, tendance trap, et la club musique plutôt de la scène voguing. Elle se fait rapidement du coup un nom sur la scène underground locale et elle trace tranquillement son sillon qui l'amène, enfin tu vois, un sillon international où elle se retrouve un peu à mixer aux quatre coins de l'Europe. Depuis 2017, elle a déjà sorti 3 EP et tu la vois notamment collaborer, je crois, sur son premier EP avec Shy Girl, ensuite avec Joe Goddard du groupe Hot Chip. Et là, elle était récemment la DJ sur la tournée de Mickey Blanco. Et elle vient de sortir en septembre du coup sa première mixtape sur le label Big Dada, que je suis attentivement parce que mon amie Victoria gère ce sous-label de Ninja Tune. Et voilà, je crois que j'en avais déjà parlé dans les précédents podcasts et c'est comme ça que je découvre la mixtape. Et dès la première écoute, en fait, il y a quelque chose dans sa voix qui me rappelle une certaine chanteuse de la Barbade que je chéris et dont on attend de la nouvelle musique, voilà, sans trop y croire, hein, je vais être honnête avec vous, mais quand même. Bref, cette vibe Rihanna pose vraiment en fait mon attention, tu sais, sur le projet, qui s'avère finalement, je trouve, assez riche et varié, et où elle développe une pop alternative très électronique, où l'on retrouve pas mal en plus d'éléments baile funk, reggaeton, et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose, on tient quelque chose pour cet épisode. Voilà, tout un tas d'éléments, je me suis dit que ça pourrait te plaire. Donc je vous propose tout de suite qu'on écoute un peu de musique avec le morceau qui clôture la mixtape en forme de un peu de bastos. Le morceau s'appelle Resaca. On écoute et puis on revient un peu parler de Lisa, de musique de club, tout ça, tout ça.
Joga pra mim, só sequência na sua cara. Toca de jeans e o som para, eu vou pra casa. Eu tô afim, hoje vai ser tudo ou nada. Você pra mim e nós dois juntos na sacada. Quero saber como você movimenta. Força lá com força, lá 50 dos 50. Chega mais pertinho, amo quando você encosta. Quero empinar, sei que você gosta. Vá pra cima, vá pra baixo, pula, bate essa balança. Amo seu olhar.
C'était Lisa avec le morceau Resaca. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Anaïs ?
Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Resaca ?
Pas du tout, j'avoue, j'ai pas digué ça.
Ça veut dire gueule de bois en espagnol.
Très bien.
Peut-être que ça veut dire quelque chose d'autre en portugais, mais en tout cas en espagnol, ça veut dire ça. C'est drôle.
Trop drôle.
Ce morceau est incroyable.
Ouais, ça te plaît ?
Ah, mais
ouais.
C'est... Enfin, de toute façon, cette mixtape est folle. Et moi, je dis Liza. Je dis pas Lisa.
Peut-être, alors
mais
j'avoue, oui, je...
On, voilà, on va se donner la liberté de dire comme on veut.
T'as raison, certainement, vu que c'est avec un Y que je... Ouais, carrément.
Mais en tout cas, cet artiste, je dirais, ça fait ça fait 4 ans chaque année. Et en fait ses prods sont absolument incroyables, et là elle se met beaucoup plus dans une position de chant, de pop.
C'est ça, parce que je l'avais pas précisé, mais du coup c'est, je l'ai présenté comme une DJ, mais là par exemple sur le morceau effectivement, enfin elle chante maintenant sur tous ses tracks.
Ouais, et en fait voilà, elle a une prestance assez incroyable, exactement voilà, dans la lignée de Shy Girl. Et cette mixtape est folle, et je vous invite à écouter 10 heures vite avec Lathawi, qui est aussi
j'ai hésité, moi franchement sur la mixtape je retiens, en tout cas moi il y a 5 morceaux, je pense une bonne moitié que je trouve très 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 solide, où j'étais un peu en hésitation. Là j'ai décidé de ramener un son plus électro, parce que c'est vrai que le morceau avec Lathawi, du coup rappeuse espagnole, c'est ça, hein, elle est bien espagnole, Lathawi.
Alors elle est franco-espagnole, figure-toi qu'elle a grandi à Barbès, c'est improbable.
Ah ouais,
et elle parle très bien français comme toi et moi.
D'accord, et bah tu vois, ça je ne savais pas, mais c'est vrai que là on est vraiment ce morceau là dans mon souvenir est assez vibe reggaeton,
oui, clairement.
Pur, et j'avais envie quand même du côté un tout petit peu plus électronique. Moi par exemple sur ce morceau là j'adore vraiment ce côté très métallique de la prod, je trouve que c'est une touch qui a vraiment beaucoup sur la mixtape, et que moi perso qui a vraiment retenu mon attention. Mais j'avoue, j'étais vraiment dans une hésitation là-dessus, sur quel morceau je ramène, parce que je crois qu'il y a le morceau Cheat Code aussi que j'aime beaucoup, qui est un peu dans ces mêmes sonorités-là, et qui peut-être regroupe encore plus toutes les influences, je pense, qu'elle a. Et je trouve le morceau Chamé, il y a le morceau Hold Me, je crois qu'il y a un peu plus Garage, ou ça, je me suis dit que c'était peut-être des choses qui pourraient te parler aussi.
Carrément.
Toute cette mixtape donc.
Ouais, et notamment l'intro, parce que c'est vraiment ça qui m'avait retenu mon attention, parce que sur l'intro, c'est vraiment très 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 Rihannesque.
Ok.
Dans sa manière, je trouve, de poser sa voix dans le chant, j'ai fait j'ai l'impression de revenir, tu vois, à une époque.
Ah, oui, une grande passion de Clément pour Rihanna.
Exactement.
On adore piquer aux auditeurs et auditrices.
Exactement.
Mais c'est vrai que c'est incroyable, parce que elle fait partie de ces artistes qui engrangent toutes ces influences, les influences internet, tu vois, c'est un bébé 2000 quoi.
Ah ouais, ouais.
Donc en fait, et en fait, il y a aucun complexe, tu vois, de mettre de la baile, du reggaeton, tu vois, du garage, et être vraiment dans ce mix et d'en faire une identité musicale qui est quand même assez marquée et reconnaissable. Et moi je trouve ça tellement excitant, tu vois, on peut pas, c'est vraiment quand on dit que on a fait toute la musique qu'on pourra faire et qu'il y a pas de
il y a plus rien à faire,
machin, mais non, mais c'est il y a toujours des choses extrêmement intéressantes qui sortent en ce moment, quoi.
Puis en plus elle est jeune, hein, ça je crois qu'elle a vraiment à peine le début de vingtaine, quoi. Donc c'est quand même
c'est fou, quoi.
Elle a déjà une sacrée expérience, parce
ils arrivent les petits là, les petits kids, les bébés 2000, ils arrivent et ils, franchement c'est incroyable, c'est trop bien. J'adore.
Et tu l'as programmé du coup ?
Ah, j'aimerais bien.
Ouais.
C'est déjà trop cher pour la main pour moi.
Ah ouais, c'est déjà.
Non, en vrai, j'aimerais beaucoup. Après, c'est en fait des artistes, honnêtement, qui arrivent déjà avec des stratégies super établies. Tu vois, voilà, c'est un sous-label de Ninja Tune. Il y a un tourneur derrière. Ils savent exactement où est-ce qu'ils veulent les placer, etc. C'est sûr qu'aujourd'hui, en programmation, c'est pas toujours facile. Surtout pour le live, les DJ, les live musique électronique très instrumentaux ou machine, c'est encore, tu peux un peu créer des choses, mais des artistes de live comme ça, où il y a des profils, il y a des managers derrière, c'est très difficile d'arriver et de leur proposer des choses, enfin... C'est,
ils ont eux leur plan en tête,
oui,
et
voilà.
Okay.
Et s'ils n'avaient pas déjà en tête ta salle, bah voilà quoi. Donc c'est tout l'enjeu aussi de la programmation, c'est comment tu crées une salle et une identité qui soit assez forte pour que les artistes ils aient envie de venir à toi. Tu vois.
D'accord, parce que par exemple là, bon, pour ceux qui ont écouté le morceau et que ça a intrigué, par exemple, elle passe là tout prochainement, elle est le 21 octobre à la station Gare des Mines. Donc c'est vrai que c'est quoi par exemple là. Si on doit faire une comparaison avec la machine, c'est vraiment, à ton avis, peut-être une sorte d'identité de salle qui fait qu'ils se dirigent plus vers ça que vers...
Clairement.
Ok.
Clairement, c'est une identité, bah, justement, très underground et clairement plus que la machine. Et c'est très bien, mais c'est un choix. C'est un choix.
Tout à fait, ouais, non, mais j'imagine totalement l'idée. Et c'est vrai qu'elle... En tout cas, et puis elle part de là, hein, ce côté très underground, donc certainement qu'elle veut encore développer ça et pas se retrouver dans des, dans des stalles peut-être plus établies comme La Machine, quoi.
Ouais, après c'est...
Enfin, La Machine ou d'autres, en l'occurrence, c'est pas pour...
Carrément, et après c'est très smart, tu vois, de se poser dans des salles comme ça et après de se dire que, bon, bah, on fera tel ou tel festival et, enfin, d'un point de vue stratégique, c'est hyper bien pensé pour garder ton cœur de communauté et à la fois aller vers des choses un peu plus grand public et c'est pour ça, tu vois, sur cette mixtape, ils ont pris une attachée de presse en France pour bosser la sortie. Donc clairement, le territoire français les intéresse et ils voient qu'un potentiel, clairement.
Ouais.
Mais ouais,
c'est
ouais,
hyper intéressant.
Stratégie.
Ouais, je crois que tout bien, je crois que Ninja Tune, ils sont quand même le territoire français.
Ouais,
et,
ouais,
les intéressent beaucoup. Ouais.
Tout à fait.
Il y a un vrai travail qui est fait dessus.
Je trouve ça hyper intéressant de réfléchir. De voir un peu les dessous de comment est-ce que ça se passe pour un artiste d'être programmé ou non dans certaines salles et tout, c'est intéressant.
Toi, ça t'a plu ?
Ouais, de ouf, j'adore. J'ai ajouté tout de suite la playlist à, à ma playlist de trucs à écouter et tout, parce que franchement, c'est chambé, quoi.
Ouais, je pense
et
que tu
j'avoue que quand tu parlais de Rihanna, au tout début, peut-être un peu moins sur la fin, mais j'avoue, le tout début là, du morceau, j'ai fait ah oui, j'entends totalement le
Ah bah écoute, je suis content parce que. Après coup, je me suis dit, en tout cas, moi, c'est pas là où je la ressens le plus, mais c'est parce que vraiment le premier morceau est tellement.
Mais c'est vraiment parce que tu l'as cité, et du coup, je me suis dit, j'avoue, en écoutant les deux, trois premières phrases, j'ai fait, ah ouais, c'est vrai, je peux entendre un.
Mais c'était marrant, en tout cas, c'est le truc de sensation, parce que moi, c'est vraiment ça où je me souviens parfaitement la première écoute, où tu sais, vraiment, je pense que je lance ça en allant à la douche, et puis vraiment, tu sais. Bim, j'entends le morceau et je reste keblo. Mais attends, c'est. Ça ressemble vraiment, et puis tu vois, du coup, j'étais resté sur ça. Et là, hier, en préparant tranquillement la chronique, je regarde un petit peu ce qu'on pensait les gens. Tu vois, je regarde notamment, je tombe sur la critique Pitchfork, et je vois qu'ils font la même comparaison. Donc, je me dis, ok, c'est que bon, bah, l'oreille m'a pas trompé là-dessus, quoi. Du coup, je me pose la question, qu'est-ce que tu recherches? Quand tu penses à programmer quelqu'un, c'est-à-dire c'est quoi un peu les critères vers quoi tu qu'est-ce que tu recherches dans quelqu'un que tu souhaites programmer.
Ça redirige un peu vers ce dont tu voulais parler sur la DA de La Machine, je pense.
Yes.
Comment est-ce que tu réfléchis à tout ça, quoi ?
En fait, j'en reviens à ces deux mots, mais c'est comment tu crées une expérience et comment tu vas fidéliser ton public et leur offrir quelque chose. C'est vraiment un truc de give and take, c'est-à-dire que on est une salle dans laquelle on reçoit du public et qui vont consommer chez nous et qui vont payer une entrée. Et qu'est-ce que tu vas leur apporter ? Comment ça va changer d'une expérience lambda qu'ils peuvent avoir dans un autre espace ? Comment on utilise notre espace qui est assez particulier parce qu'on a deux salles, on a quatre étages, on a un bar et un toit. Donc vraiment, j'essaye de créer un truc où les gens sont surpris. Ils peuvent être surpris, peuvent avoir de la découverte. Parce que c'est vrai que souvent, les gens me disent c'est étonnant qu'avec une salle de 1000, 1300 personnes, vous ne fassiez pas plus de têtes d'affiche, vous ne fassiez pas les 10 DJ du circuit qui devraient jouer dans tout gros club européen. Et c'est vraiment une volonté de positionnement, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas avoir des DJ superstars qui viennent et qui, on va dire, consomment le DJ Boost. Enfin, c'est un peu bizarre de le dire mais ça, parce que d'avoir des DJ comme ça, c'est très bien, ils méritent leur position, leur carrière, etc. Mais du coup, tu te retrouves aussi avec un public qui vient consommer un DJ set, parce que du coup, c'est quelqu'un, et du coup, c'est même pas qu'il revient pas forcément, mais au final... Est-ce que tu viens pour l'expérience et est-ce que la soirée en soi t'apporte ?
Ouais, bien sûr.
C'est-à-dire que c'est un vrai choix d'avoir des collectifs résidents et de créer des marques assez fortes. C'est-à-dire que quand on fait des soirées avec La Mamise, avec Yard, avec Rins, c'est une volonté de communauté que tu ramènes et qui s'approprie un espace. Quand on crée Quartier Rouge, c'est pareil, c'est cool. Tu vas peut-être venir à un Quartier Rouge parce que t'as un DJ... qui passe ou une DJ qui passe qui t'interpelle, mais en vrai moi je voudrais que les gens ils se disent plus en mode ah mais c'est la Quartier Rouge, donc en fait je vais venir à la Quartier Rouge et ah ouais la dernière je connaissais ce line-up, là je connais personne, mais franchement ça fait trois Quartiers Rouges. Je
ouais,
sais
bien
que
sûr.
Ça va
et puis
être cool.
Tu crées du coup une sorte de symbiose aussi du coup avec le lieu, c'est-à-dire que
exactement.
Tu sais c'est à La Machine, donc il y a quand même une, comme tu disais, une sorte d'expérience, te dire, voilà, qui est en accord avec ta programmation, avec en tout cas ce que tu vas voir sur scène. Et,
Ouais, c'est ça. Et puis au final, c'est vrai que bah, forcément, je connais très bien le lieu. Enfin, avant de bosser là-bas en prod, puis en programmation, je bossais là-bas les week-ends au vestiaire, tu vois, quand, j'étais stagiaire avec Peggy à l'époque. Mmh. Donc le lieu, je l'ai vu vivre depuis tellement d'années que bah, y a des espaces qui sont plus adaptés à des artistes que d'autres. Par exemple, la semaine dernière, on a fait jouer Cherelle, qui du coup aujourd'hui est une DJ quand même assez installée, qui est une tête d'affiche, on va dire.
Oui, c'est vraiment, une DJ. Je ne sais pas si c'est une tête d'affiche.
Midliner, on va dire. Une tête qui commence à ramener des gens. Et les gens me disaient, mais comment t'as mis Cherelle en chaufferie? Et j'étais là, bah ouais, en fait, c'est l'espace pour elle. Ouais.
Parce que la chaufferie, on est d'accord, ça, c'est la petite salle.
C'est la salle du bas, la machine. Donc en gros, la machine, c'est quand même, à la base, il y a une grande salle avec des escaliers dans lesquels tu descends et il y a une grosse scène, etc.
Très haut de plafond, c'est un ancien théâtre. C'est un ancien théâtre du Moulin Rouge.
Donc du coup, en effet, c'est très haut de plafond, etc. Et la chaufferie, c'est un truc un peu plus, tu descends, c'est vraiment bas de plafond. Et du coup, pour le coup, t'es vraiment face au DJ et tu t'en prends plein la gueule, quoi.
Tout à fait.
Je comprends que Cherelle, qui est donc une DJ anglaise qui joue beaucoup jungle, drum and bass, je ne me trompe pas, je comprends qu'elle finisse à la chaufferie, parce que c'est en effet c'est une question d'espace et non pas de oui, en fait elle mériterait d'être au central parce qu'il y a 1000 personnes devant elle, mais l'énergie à la chaufferie sera plus logique, quoi.
Voilà, ouais. C'est ça.
Trop bien.
Donc voilà, essayer de donner, quoi, vraiment, et de se dire que tu crées un truc où les gens ils sont valorisés mine de rien, tu vois, que ce soit par comment on accueille les personnes, comment le staff va leur parler, ce qu'on vend au bar, ce qu'on propose. C'est important et tout est en relation. Donc après, bien évidemment, je choisis les artistes, bah, bien évidemment, au coup de cœur et au ressenti. C'est vrai que je me fie beaucoup à mon instinct et mon ressenti sur est-ce que ce line-up il colle ou il colle pas. C'est assez bizarre, mais je ne saurais pas te dire pourquoi. Oui. Qu'est-ce qui fait que je vais choisir ça plutôt qu'un
autre. Il y a une part un peu de feeling aussi, quoi.
Il y a vraiment énormément de parts de feeling où je me dis ok, là je le sens, et puis je me fie aussi à ma propre expérience de club et de...
C'est ce que je veux dire, du coup, tu repères un peu comment, c'est-à-dire que tu vas à d'autres soirées, tu digues sur internet, tu vois, les DJs, enfin, tu regardes des DJ sets sur, je sais pas, enfin, toutes sortes de DJ sets sur internet.
Alors, j'écoute beaucoup Rins et NTS.
D'accord, ok.
Mais en fait, c'est là que vient le... En gros, mon activité de DJ et programmatrice s'alimente énormément.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, je digue énormément pour mes sets, pour ma résidence sur Rins. Donc forcément, ça m'amène à avoir des découvertes d'artistes, des labels que je suis, où j'ai toutes les sorties, etc. Bah, ça se fait du coup un peu naturellement. Exactement. Et puis c'est vraiment un truc où tu sais, bah, tu repères un nom une année, en fait tu revois ce nom machin, et en fait tu dis ah mais là c'est le bon moment, là il y a une sortie, il y a un bon timing. Ouais, ouais. Tu vois, c'est voilà, ça se joue comme ça aussi un petit peu.
Et du coup, alors, je pense que tu l'as un peu répondu, donc peut-être que la question va être vite expédiée, mais est-ce que ça peut arriver ou ça t'est arrivé de programmer des artistes dont c'est tout simplement moins ta cam ou quoi?
Je pense que c'est pas beaucoup arrivé parce que en fait, je pense que c'est hyper important, rien que pour l'énergie qu'il va y avoir de mise en place en termes de promotion, de comment tu emmènes ton équipe à travailler une date et comment tu vas aussi, toi, transmettre un peu tes porte-étendards de ta programmation. Donc, vraiment, c'est je pense que ce n'est pas arrivé, ou vraiment très rarement. Enfin là, j'ai pas d'exemple en tête, en tout cas, parce que en fait je m'empêche de le faire, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de me dire ouais mais ça ramène, c'est bien et tout machin, mais en fait je le sens pas, c'est pas un truc dont je pourrais être forcément fière, tu vois. Du coup je me dis bah c'est que c'est pas le bon truc. Je pense que c'est un truc un peu en 360 où ça met où ça infuse après, tu vois, forcément. Donc voilà.
Oui, travailler sur des projets que où tu le sens pas, ça tire personne vers le haut, quoi. C'est évident, donc c'est ça paraît logique.
Et franchement, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle, parce que j'ai quasiment jamais bossé sur des choses qui me plaisaient pas ou avec lesquels j'étais pas d'accord, et je pense que c'est une chance exceptionnelle aujourd'hui.
Et je pense que ça rejoint certainement ce que tu disais sur l'intention que vous avez dans l'organisation des soirées à la machine, parce que j'imagine par exemple quand tu prends des plus grosses salles de concert, en tout cas si on doit faire le parallèle, tu vois, avec j'imagine ton métier de programmatrice, mais sur d'autres salles de concert, quand tu vois certaines salles, enfin c'est très éclectique, les artistes qu'ils vont recevoir, bon bah quand tu je me demande comment tu travailles.
Parce qu'il y a l'ambition aussi de remplir et de faire vivre la salle, quoi. Donc ça qui est compliqué.
Après, on est aussi très éclectique.
Oui, c'est ça.
Franchement.
Oui, c'est ça.
Et puis, on a moins la main sur la programmation. En fait, en gros, la programmation de concert à la machine, c'est quasiment que de la location. Donc, et ça a toujours été une volonté d'aller dans un spectre. Tu vois, on a autant du métal que du rap, que du
rock. C'est pas la même chose de toute manière, le club et la salle de concert. C'est vrai que c'est pas tout à fait le même fonctionnement, j'imagine.
Non, après, c'est toujours le même fonctionnement dans le sens où on a toujours la même volonté d'accueillir correctement les gens d'avoir un truc qui se passe qui soit chouette et de quand même avoir la main. C'est-à-dire que s'il y a un groupe de métal. Tu vois, avec un message antisémite, en fait, on va pas le programmer.
Bien sûr.
Ouais. Voilà. Mais oui, effectivement.
Est-ce qu'on passerait pas au son d'après, car je pense qu'on va pouvoir avancer sur cette interview qui dure depuis déjà une heure.
Allez, c'est parti.
Et bien donc, on enchaîne avec le deuxième morceau sélectionné par Anaïs. Tu nous as ramené Mode Selector et Thom Yorke.
Oui.
Oui, c'est un morceau qui s'appelle This. Est-ce que tu veux nous en parler avant qu'on l'écoute ?
Alors, juste un mot, c'est un morceau qui fait partie de l'album Monkey Town, sorti en 2011. Et je dirais que c'est l'album qui m'a donné vraiment envie de faire du live et de la musique mon métier.
Waouh, ok. C'est une
pas mal, c'est une belle
intro pour enchaîner son morceau. Mode Selector et Thom Yorke, deuxième morceau sélectionné par Anaïs aka Anako. Alors, on disait que juste avant de lancer ce morceau, que c'était un morceau qui a été très fondateur pour toi.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus déjà ?
Carrément. Alors, moi en 2011, je suis à Bordeaux, comme on a un petit peu parlé avant. Et donc cet album, il sort en septembre 2011, un truc comme ça, ouais, donc ma deuxième rentrée et tout en France, où vraiment je découvre les sorties, etc. Et en fait, cet album sort, moi je me prends une claque, je kiffe, tu vois, vraiment, c'est vraiment dans la lignée de, à l'époque, Caribou, Burial, vraiment ce truc anglais expérimental, l'IDM, tu vois, dont on parle plus du tout parce que c'est dépassé, l'Intelligent Dance Music. Qui était un peu les prémices de justement la hyperpop, la future pop, la musique expérimentale électronique de cette vibe là. Et donc Mode Selector font une je les découvre avec cet album, je crois, il me semble, et ils enchaînent avec une tournée et ils passent au Rocher de Palmer. Et donc, moi, j'avais déjà fait des petits concerts à Bilbao, etc., des groupes de rock un peu, voilà. Mais c'est mon premier live de musique électronique Vraiment live, quoi. Oui. Tu vois, deux mecs
ça
sur scène, au Rocher de Palmer, tu vois, dans une vraie salle. Et en fait, là, je me prends une énorme claque et je me dis, en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est vraiment, c'est ça que je veux faire. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que, donc quasiment, ouais, allez, 8-9 ans après, en fait, je bosse avec eux. Parce que Diff, du coup, était leur sous-agent, en fait, historiquement, Signoco, produisait les lives de Moderate et Mode Selector à Paris. Okay. Donc, en gros, moi, un des premiers trucs que je fais avec Peggy quand j'arrive en stage avec elle, c'est qu'en gros, on produit le live de Moderate à l'Olympia.
Wow.
Et moi, je fais ça en stage.
Achievement.
De ouf. Et c'est vraiment là où j'ai vraiment pris toute l'expérience de prod, de tournée, d'accueillir des artistes étrangers en France. Et c'était ouf. Et vraiment, je remercierai jamais assez Peggy et à l'époque Rooms, qui était la boîte de prod de Signoco, de m'avoir fait confiance. Genre, vas-y, gère l'Olympia, tu vois. Genre, gère le truc, trouve le catering.
C'est toi qui as tout géré.
Après, j'avais bien sûr une supervision. Mais à la fin de la date, c'est moi qui étais en train de voir avec le tour manager pour checker le budget, checker les prod costs, les production costs. C'est en gros combien t'as dépensé en catering, en serviettes, en location de light et de son. Parce que quand tu vas à l'Olympia, la salle, elle est louée à vide et tu dois louer le son et tout.
Ouais, ça, t'as tout à faire, quoi.
Ouais, donc en gros, expérience de ouf.
Incroyable.
Vraiment. Et en fait, après, comme on bosse sur Div Production, en fait, on devient leur sous-agent français. Voilà.
Ok.
Du coup, voilà. Et on produit après l'Élysée Montmartre quand ils ont sorti leur album, etc.
Donc, à ce moment-là, quand tu travailles du coup sur ce type de projet, tu as la chance aussi d'assister un petit peu à la création du spectacle, un peu vraiment de l'intérieur.
Alors, donc eux, ils produisent tout, tu vois. Alors, c'est hyper intéressant parce que la manière dont ils fonctionnent, eux, ils ont leur label, donc Monkey Town, qui s'appelle comme l'album d'ailleurs. Le label, ils produisent tout leur live et ils sont vraiment autonomes. Et donc, pareil avec Moderate. Donc, nous, on était allés à Berlin, tu vois, pour voir le premier show, etc. Mais non, sinon, là, tu fais pas partie, en gros, du processus. Oui. Mais par contre, tu fais partie de la stratégie de OK, on va placer dans quel festival le live, c'est quoi votre volonté, tu les aides à trouver les PR, les RP en France, voilà.
Ok.
Donc trop intéressant.
Wow.
Voilà. Et au-delà de ça, ce morceau est fabuleux parce qu'aussi Thom Yorke.
J'allais y venir. J'allais dire, c'est pas anodin que t'aies choisi un morceau avec Thom Yorke.
Clairement, c'est un artiste qui me parle énormément, que ce soit avec Radiohead, mais aussi avec toutes ses collabs, que ce soit Burial, Fortet. Enfin, à chaque fois, c'est juste. Enfin, il se passe quelque chose. Pour moi, cette voix est magique. Bref, c'est.
On est d'accord parce que moi, je me souviens avoir écouté l'album à l'époque, mais j'avais plus retenu. Il y avait un autre morceau avec Thom Yorke qui était presque un peu un single.
Non. Shipwreck.
Oui, Shipwreck. Shipwreck, ouais.
Et c'était lui qui était un peu. J'ai le souvenir que c'était un peu lui qui était balancé en.
Oui. Oui.
En single, en tout cas comme morceau pour appâter.
Oui, clairement, c'est le tube de l'album. Mmh. Mais c'est hyper intéressant parce que même le travail de la voix, comment elle est utilisée, enfin, elle est vraiment utilisée comme un instrument, tu vois. Donc en prod par des artistes de musique électronique, et c'est quelque chose auquel Thom Yorke s'est ouvert très très tôt. Et il participe au processus de création aussi, donc c'est hyper, hyper chouette.
Et du coup, toi, t'as beaucoup écouté Radiohead en solo, j'allais dire, mais enfin, Radiohead, le projet et
j'ai
tout.
J'ai un peu écouté Radiohead, pas énormément, ça vient moins de ma culture. Ouais. Enfin, franchement, j'ai plus découvert Thom Yorke avec ses collabs, justement. Voilà, et écouté Radiohead
plutôt
par la suite,
du côté électronique de la force, bien sûr. Trop bien.
Vous connaissiez ce morceau, vous ?
Moi, je connaissais pas du tout. Et j'avoue que, en fait, moi, je me disais là en écoutant que j'aime bien. Mais je pense que, et je pense qu'on va en parler après avec le morceau que je ramène, je pense qu'il y a un côté où moi, il me manque un truc dans ce morceau pour que ça me touche et tout. Et je pense que moi, je suis liée aux percussions et au rythme.
Ouais.
Et donc, du coup, je trouve ça chambé. Enfin, genre, il n'y a rien à redire, c'est ultra bien produit, c'est beau, c'est merveilleux et tout. Mais juste, je pense qu'il y a un aspect qui me touche un chouïa moins, juste parce que. Il me manque un truc un peu plus percussif dans mon amour de la musique, tu vois. Mais en fait, moi, je crois que je commence à réaliser un peu où est-ce que je me place sur le spectre de toutes les musiques, etc. Et je me dis, en fait, je crois que moi, il y a un truc
rythmique et je crois que moi je viens vraiment d'un amour du hip-hop à la base. Et donc du coup quand je retrouve pas trop ça dans la musique électronique, c'est un truc qui va me plaire, mais peut-être pas que je vais
ça c'est pas le coup de cœur quoi.
Ouais, peut-être pas qu'il va me toucher à ce point là quoi.
Je comprends,
mais je trouve ça chambé, hein. c'est trop bien.
En fait c'est marrant que tu dis ça parce que du coup moi je me rends compte que ce qui me plaît de ce morceau et ce qui est toujours attractif pour moi, c'est vraiment ce truc broken beat.
Ouais.
Bass vraiment au final à l'anglaise, même si c'est des Allemands, mais qui est un truc un peu constant, même aussi dans mon amour du reggaeton. C'est sûr que en musique électronique, en tout cas, c'est vraiment ma base quoi.
Mais tu vois, sur Monkey Town, on en avait parlé il y a pas si longtemps de l'EP de Silver qui était sorti chez eux. Et donc du coup chez Silver je retrouve ce truc là, tu vois, où il y a une espèce de truc où vraiment ça te tabasse la gueule, et moi j'adore ça quoi. Mais c'est vrai que là-dedans il y a aussi de ça, tu vois, genre dans les rythmiques du morceau et tout, mais c'est plus
je comprends,
en dessous
tout
je trouve.
Je comprends tout à fait.
Je sais pas comment expliquer.
Mais tu préférais sûrement leur dernier album.
Ok.
Le dernier.
Ok, très bien, j'ai écouté.
Moi j'aime beaucoup. Moi j'adore ça, mais j'aime beaucoup cette scène-là, et même si j'avoue dans cette entité-là que tu décrivais, je suis plus Apparat que Mode Selector, quitte à choisir. Je sais qu'Apparat c'est vraiment de la musique qui me touche en plein cœur, c'est... Voilà. Mais l'aspect, j'aime beaucoup quand même cette sonorité... un peu sombre, un peu mélancolique, et là c'est vrai que je trouve ça match parfaitement avec Thom Yorke, et c'est pour ça d'ailleurs je pense que ça fonctionne bien aussi avec Apparat, c'est que quand même cette voix qu'il a, Apparat, ça moi ça me fait décoller quoi.
Ouais, mais Moderat c'est quand même ils ont créé un vrai truc quoi. C'est vraiment une entité à part, c'est pas juste le band de Mode Selector ou le band de Apparat, enfin ils ont réussi.
Non, c'est
et peu d'artistes
le meilleur
réussissent...
un peu t'as le meilleur des deux quoi.
Ouais, peu d'artistes réussissent à faire qu'un projet comme ça soit limite plus grand et grandisse plus vite que leur projet principal quoi.
Je suis d'accord. Mais c'est que je crois que Mode Selector tout seul ça va un peu moins me toucher, c'est-à-dire que un peu comme nous, c'est-à-dire que je vais constater la perfection du travail, mais quand ils sont peut-être pas forcément justement avec là, ça fonctionne trop bien parce qu'il y a Thom Yorke qui justement me ramène cette émotion.
Clairement, ouais.
Quand il y a pas forcément le chanteur ou la chanteuse pour accompagner la prod, ça va, je vais être un peu plus extérieur à ça.
Je comprends.
Ce qui n'est effectivement pas le cas quand j'écoute à part à tout seul, parce que là, bon, je chiale toutes les larmes de mon corps.
Les frissons.
Ah ouais, ok, d'accord.
Bon, je me laisse emporter.
Oui.
Mais tiens, justement, ça fait une belle transition avec une question qu'on pose régulièrement et qui tient très à cœur à Clément, c'est justement, c'est quoi la musique ou en tout cas peut-être le genre musical qui te met dans tes émotions et qui te fait, je sais pas, ressentir des trucs quoi. C'est pas forcément la chiale, mais ça peut être vraiment genre un truc qui te prend aux tripes quoi.
C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Non, mais en fait, c'est ça qui fait que je pense que je suis DJ aussi.
Ouais.
C'est qu'il y a énormément de styles différents et de musique qui va me provoquer cette sensation.
Bien sûr.
Et bien évidemment, à des moments différents. Mais aujourd'hui, j'ai des morceaux de Galaxy to Galaxy, Underground Resistance, etc., qui me met dans trance, tu vois. Alors, c'est de la house, des trois house, etc. Ça peut être des morceaux, bah, justement, Burial, sur des trucs hyper minimalistes, hyper longs, 13 minutes de track, et tu comprends pas ce qui t'arrive. Ou des tracks de reggaeton un peu mélancolique, romantique, tu vois. Enfin, ou de la bailée, tu vois.
Ouais.
En fait, c'est... Et je pense que c'est pour ça que je me sens bien dans mon métier aussi, c'est que bah, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses différentes. Mmh. Et ça peut me faire ça sur du free jazz aussi, quoi.
Ouais.
Chose qui est très clivante, mais...
ouais, non, mais c'est, voilà, ce qui va pas forcément être le cas de tout le monde. Enfin, tu sais, je pense qu'il y a... En tout cas, même par rapport aux personnes qu'on a reçues ici... tu sens que parfois il y a un type de musique qui vraiment là est la musique un peu doudou, la musique cocon, plutôt plus cocon d'ailleurs que doudou. Parce que doudou, il y a le côté du passé, c'est pas forcément ça, mais tu sais, cette musique dans laquelle t'es. Ah, ok,
ouais. T'es bien quoi.
Après, je pense que clairement, il y a des choses que je n'aime pas, qui ne me font pas grand chose. Genre la variété, c'est. difficile pour moi.
Ouais.
Genre Angèle, j'apprécie totalement le projet.
Qui est la personne.
Bien fait, ouais. Exactement. Mmh. Mais objectivement parlant, ça ne me provoque aucune émotion. Quoi. C'est, ouais. C'est assez... voilà, ça marche pas.
Ouais, ça devient neutre, ouais, c'est en mode ce n'est pas du tout dans ton spectre, quoi.
Voilà, mais c'est vrai que c'est marrant parce que moi je me trouvais très fermée musicalement, tu vois. Je me disais, ah, mais si c'est pas ça ou ça, ça me fait rien. Et au final, non, oui, il y a un lien, il y a un fil conducteur qui est la musique électronique, le travail instrumental d'une prod, etc., des influences, des sonorités, tu vois, qui peuvent se retrouver du coup maintenant de plus en plus dans plein de styles.
Ouais, mais en fait, moi je trouve ça intéressant parce que tout à l'heure on parlait de Quartier Rouge qui était un peu une des soirées DA 100% la machine et tout, mais t'organises aussi Reggaeton Gang Fusion qui est une soirée, du coup, comme son nom l'indique, autour des esthétiques reggaeton. Et du coup, moi je trouve que je suis pas sûre par exemple que les gens qui viennent à Quartier Rouge vont forcément à la Reggaeton Gang Fusion et inversement, tu vois. Et du coup,
et bien des trompes, tu vois.
Et du coup, en fait, enfin. Typiquement, je fais partie des gens qui
tu vas aux deux.
Littéralement, j'ai fait la Quartier Rouge co-signée avec Teki et la Reggaeton Fusion il y a un mois. Donc vraiment, je fais partie de ces gens-là. Mais tu vois, en fait, je trouve que c'est quand même des styles musicaux que
tu ne viendrais pas mettre en tout cas l'un
ouais,
à côté
ça, de l'autre.
Ouais,
c'est ça. Mais je pense que pour les gens qui sont pas à donf dans la musique et tout, c'est pas des trucs où ils se disent genre bien sûr ça fait sens de mettre tout ça ensemble, tu vois. Et je trouve que du coup toi en tant que DJ, t'as aussi cette patte de réussir à fusionner tout, quoi. Et moi je trouve ça hyper impressionnant. Enfin moi je sais que ça fait partie des trucs où je suis en mode c'est bien, il y a des gens qui font ça. Du coup ça veut dire que je peux le faire aussi. Mais donc moi je trouve ça cool que t'es ce tampon de dire mais en fait je vais passer la musique que j'aime et whatever it is, tu vois.
La philosophie du blend.
Exactement.
Tu connais.
Ouais. Donc les blends qui sont, pour les gens qui nous écoutent, quand tu mets deux morceaux l'un par-dessus l'autre, qui est une grande technique de Tequila Tex, le grand Luik, et de plein d'autres gens en vérité. Mais...
Oui, ou en gros c'est le but de fusionner des choses qui n'ont pas vocation à la base à être fusionnées.
Ouais. Donc beaucoup de morceaux de hip-hop et d'électro par exemple, et moi plus ça va, plus je suis en mode ça me donne des idées. Ouais.
Moi j'avais deux questions en une. Comment du coup, dans le prolongement de ce que tu écoutes, comment tu découvres de la musique, c'est-à-dire par quel biais en général? Est-ce que tu écoutes des albums? Est-ce que tu écoutes des playlists? Est-ce que tu digues sur SoundCloud, ce genre de choses? Et dans le même temps, est-ce que du coup tu arrives à écouter de la musique sans penser boulot, entre guillemets? Parce qu'entre ton taf de programmatrice et ton taf de DJ, j'imagine qu'il y a peut-être une déformation professionnelle qui fait que ça doit pas être évident de se dire « Ah tiens, j'écoute juste de la musique comme ça ».
C'est très difficile. C'est marrant parce que j'en parlais vraiment il y a pas très très longtemps et je sais plus à qui je disais, mais en fait, j'écoute plus de la musique sans but, ouais. Tu vois, où juste tu fais rien et en fait t'as rien derrière la tête et c'est quand même hyper important. Donc, et j'arrive à le faire, mais avec des choses que je connais déjà. Donc ça, c'est un peu, donc c'est un peu le côté un peu doudou, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, de se dire, allez, je réécoute tel album, tu vois, et là, t'as pas de but parce que tu le connais déjà. Donc bon, mais c'est vrai qu'on a des vies assez chargées et mouvementées et ouais, t'as toujours un truc où tu vas aller mettre les morceaux dans une playlist ou dans un endroit où tu vas le mettre de côté, quoi. Donc voilà. Et la manière dont je découvre de la musique, il y a plusieurs canaux. En gros, avant je diguais vachement sur SoundCloud, plus du tout. Ouais. Je trouve que la plateforme, elle a évolué bizarrement. Enfin, il y a vraiment un truc qui, voilà, ne va pas.
Moins instinctif.
Ouais. Mais du coup, j'utilise beaucoup Spotify. Je m'amuse à vraiment à craquer mon algorithme. Je le travaille, d'un coup je vais switcher, écouter totalement autre chose pendant 2 jours parce que je sais que du coup il va revenir vers ces choses là et en fait j'ai déjà réfléchi à me faire genre plusieurs comptes Spotify, tu sais, pour avoir plusieurs algorithmes parce que je trouve qu'il est quand même bien fait et c'est assez intéressant parce qu'il te met vraiment des petits artistes autant que de gros artistes. Enfin, il y a moins ce truc, même si apparemment, oui, tu vois, bien évidemment, t'as des choses mises en avant.
Oui, c'est sûr.
J'ai l'impression que l'algorithme, il est encore assez libre. Et après, oui, c'est surtout les playlists qui sont mises en avant et qui, là, du coup...
Mais en vrai, moi, je trouve que les playlists de Spotify... Enfin, je veux dire, pas nécessairement de Spotify. C'est-à-dire que je pense que les playlists éditées par Spotify, elles sont souvent assez redondantes.
Oui, tout à fait.
Et moi, je sais que quand je finis d'écouter un album et que derrière, il met la playlist automatique...
il met les trois quarts du temps des trucs que j'ai déjà écoutés. Je suis en mode vraiment ça m'intéresse pas. Par contre, la force de Spotify, c'est les gens qui font des playlists et que tu cherches un genre musical et t'as 50 playlists d'un truc et t'es en mode waouh, c'est
ouais,
super,
ouais, ouais, grave, vois, c'est genre... hyper bien. Hyper bien.
Et ça, pour le coup, en fait, tu profites de la force culturelle, musicale de plein d'autres gens, de tous les autres utilisateurs pour réussir à te faire toi-même ta propre niche à toi, quoi.
Qui sont l'héritage des playlists YouTube, quoi.
Ouais, tu vois,
qui étaient méga, méga forts dans les années 2010. Et moi, pareil, j'avais je sais pas combien de playlists. Je m'en faisais des playlists, ouais, etc.
Moi, je fais des playlists par mois.
Ouais. Moi, je n'utilise plus du tout YouTube, tu vois. Parce que déjà, je refuse d'avoir YouTube Musique et du coup, j'ai de la pub et c'est l'enfer.
Trop chiant.
Mais du coup, ouais, Spotify. Et en fait, après, je suis abonnée sur Bandcamp et Beatport à des artistes ou des labels. Donc, Bandcamp, j'utilise énormément cette plateforme parce que, pareil, l'algorithme est hyper bien fait. T'as de l'édito qui est super intéressant, fait par de vrais journalistes musicaux. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et du coup... À chaque fois, j'ai des notifications dès qu'un artiste ou un label que je suis poste un truc.
Quelque chose.
Et en vrai, ça me permet énormément de suivre, en fait, de faire le follow-up, de vraiment, de manière régulière, mettre un truc. Et, voilà. Mais encore une fois, c'est qu'un but. Mais,
Non, mais ça, après, tout meilleur. Comme
ouais,
toi,
ouais, mais ça travaille en ce moment beaucoup, je le dis. Ouais, ouais. En fait, je l'ai vraiment remarqué il y a un mois. Je me dis, wow, en fait, là, pas du tout. Il faut que je réécoute de la musique sans.
Je sais pas, ouais. Et, moi, pas alors,
ouais. Et le meilleur moyen pour ça, à titre personnel, c'est de mettre NTS et. Voilà, en mode aléatoire et toute une journée au bureau, je mets NTS. Ça,
donc
c'est
NTS,
cool.
C'est qui est une web radio londonienne qui est vraiment chambée, où il y a... Bah, c'est un peu un équivalent de Rins, j'imagine. Enfin, c'est peut-être pas la même culture.
C'est pas la même manière de l'utiliser.
Ok.
En fait, Rins UK, on va dire que c'est un peu l'équivalent d'un Planet Rap ou un Skyrock, en fait. Parce que c'est une radio qui a des ondes FM et qui, coup...
Pas fou.
Voilà, c'est un peu plus grand public, on va dire. Et la plateforme utilise moins le site que NTS.
Ouais, okay.
Alors que NTS a vraiment, vraiment travaillé son site pour que tu puisses retrouver des trucs par émission, par style, par inspiration, par mood.
Et moi, en vrai. Il y a les playlists. Et ça, mon gars, mais c'est.
Toujours.
Ça. Vraiment, je remercie les gens qui ont décidé de lâcher leur playlist parce qu'en fait, il y a vraiment souvent, par exemple, moi sur Rien France, je sais que souvent ça me frustre parce que sur les podcasts, il n'y a pas les playlists. Il y a juste. Et voici le nouveau show de truc et t'es en mode. Oui, mais donc du coup, je vais encore passer 2h30 à trouver le track ID de ce morceau qui est pas chasamable.
Ouais, quand ils étaient sur Mixcloud, du coup, Mixcloud analysait pas mal de morceaux, tu les avais. Mais maintenant, ils ont switché sur SoundCloud en replay, effectivement, et c'est moins pratique. Mais moi, je les mets toujours, par exemple.
C'est bien.
Je les poste. Je suis pour le track ID. Je suis pas pour qu'on garde nos tracks.
Ouais, ouais.
Mais c'est des philosophies très différentes. Je respecte les gens qui ne veulent pas partager leur track ID.
Je trouve ça intéressant, moi. Je trouve ça intéressant parce que. Mais je pense que c'est aussi une philosophie dans le DJing d'une manière générale, tu vois. C'est aussi de se dire, bah en fait, pourquoi tu fais ça? Si c'est pas pour partager avec les gens et pour faire découvrir tous les artistes que t'as fait découvrir, enfin, tu vois, genre. Pour moi, ça me paraît illogique, mais voilà, c'est personnel.
Est-ce qu'on passerait pas au son d'après?
Si, on peut passer tout simplement au son d'après avec plaisir. Donc c'est à mon tour de présenter un artiste, mais même deux artistes. Donc moi, un peu comme Clément, j'ai décidé que j'allais ramener de la musique de club qui tabasse parce que voilà, j'avais envie que ça te plaise. Et franchement, sincèrement, je pense que tu connais déjà et que probablement c'est déjà dans ta clé USB. Les artistes que je ramène, ils sont basés à Miami. C'est Nick Leon et Bitter Babe. Et Anaïs me fait un petit oui. Donc lui, il est...
On adore.
Bien sûr. Lui, donc, il est américain d'origine colombienne par sa mère. Et elle est colombienne. Et elle a emménagé aux USA il y a quelques années. Où ils se rencontrent. Et a priori, c'est plutôt le coup de foudre amical. Parce que vraiment, ça a l'air d'être... Enfin, j'ai vu un post Insta où elle dit vraiment, j'ai l'impression de le connaître depuis des années. Alors que ça faisait quelques mois ou quelques années, tu vois. C'est deux artistes que j'ai découvert récemment sur Spotify, justement. Dans une excellente playlist que j'ai trouvée par hasard. Qui a un nom à rallonge, genre... industriel, reggaeton, néo-péréo, post-brazil funk, etc., etc. Donc c'est une playlist que j'ai saignée et dont j'ai écouté énormément de morceaux. Et j'ai vraiment aimé beaucoup de titres qui passaient par là. Il y a beaucoup d'artistes qu'on a déjà évoqués dans ce podcast comme Florentino, Bambi, Logic 1000, Mina, Pedro, etc., etc. Et donc, il y a beaucoup de percussions, de basses, des sons électroniques. Et j'ai envie de le décrire de manière à dire un peu chelou, parce que pour une oreille pas habituée, c'est un peu chelou, tu vois. Et c'est vraiment une scène musicale qui, moi, me parle, que je trouve fascinante, et une musique qui, du coup, j'en parlais à l'instant, que je trouve vraiment souvent très entraînante parce qu'il y a de la rythmique qui me parle de ouf. Alors donc forcément, Anaïs vient, moi j'ai envie de parler à la programmatrice et à la DJ à la fois, parce que je sais que Nick Leon et Bitter Babe sont tous les deux DJ aussi, donc je me dis, on sait jamais, peut-être un jour ils passeront dans une reggaeton fusion ou même dans une quartier rouge, ils peuvent faire les deux. Donc ils ont sorti un maxi en commun en juin dernier sur le label Club Romantico, qui est donc un label qui a été cofondé par Florentino, et c'est un maxi 3 titres avec 2 remixes, un de Sherman, je sais pas si je prononce correctement, et un de DJ Python, et ça s'appelle Delirio, comme le titre que j'ai choisi de vous faire écouter aujourd'hui. Je propose qu'on écoute et qu'on parle de musique après. De Bitter Babe et Nick Leon.
C'est un titre très approprié, je trouve.
Ouais, il est très bien.
Est-ce que tu vas être blasée un peu, Louise ?
Pourquoi je vais être blasée ?
En fait, figure-toi que son agent, Nick Leon, m'a écrit la semaine dernière.
Oh my god.
Pour me dire, en fait, on va être là le 10 novembre. Et en fait, on était censé faire une soirée, lui peut plus nous accueillir. Donc là, on a juste envie de jouer. Est-ce que t'as de la place à la machine? Et je lui ai dit, bah non, j'ai plus de place.
Ah non.
Et là, j'étais triste. Voilà.
Oh, quelle sadness.
Ouais.
Mais peut-être qu'il va trouver une autre salle où jouer.
Oui, et puis on s'est dit, bon, bah on va quand même faire un rinse.
Bah oui, voilà. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas si mal, on va dire.
Clairement. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bon, alors, Anaïs a acquiescé tout à l'heure quand j'ai dit Bitter Babe et Nick Leon, donc je sais qu'elle connaît déjà, que c'est déjà dans sa playlist, probablement, et qu'elle le joue déjà.
Tout à fait.
Donc, tu kiffes ?
J'adore. Et puis, vraiment, c'est le genre de track que j'adore blender avec d'autres choses un peu plus techno. Franchement, c'est vraiment dans la vibe de Siumata, Morsatir, etc. Et j'adore. Nick Leon, c'est vraiment un super producteur.
Mm-hmm. Et Bitter Babe, et c'est une meuf incroyable. Alors ça, des meufs productrices de musique électronique, il n'y en a pas beaucoup. Alors à chaque fois que j'en vois, je suis en mode, oh putain, je me rattrape aux branches et je les récupère. Et donc j'avais voulu, bah, peut-être Clément déjà, toi t'en as pensé quoi aussi ?
Ouais, bah, mais c'est intéressant que tu parles de blend, etc. Parce que c'est par contre, moi je découvre. C'est vrai que ça ne me marque pas non plus que ça parce qu'il me manque, j'ai comme si c'était, tu sais, une musique de fond. Et d'ailleurs, au début, j'écoute le morceau et même presque surtout, ça pourrait être de la musique de film en fait, je trouve. Tu vois, de la musique qui accompagne les images. Moi, en tout cas, alors c'est peut-être ma déformation professionnelle à moi, tu vois, avec la réa, mais là, ouais, j'entends ça, je me dirais, ah ouais, tiens, c'est une musique de scène d'action ou de scène un peu, tu vois, vraiment où tu viens coller des images.
Moi, franchement, à chaque fois que j'entends des trucs un peu dans le style, je pense à Blade. Tu vois, la scène où...
Ouais,
tu vois, genre ce genre de musique un peu rapide. En fait, je sais pas, ça doit être la seule scène que j'ai en tête dans mon magazine d'images où il y a ces fameux trucs de cette bataille de vampires dans un club. Et je suis en mode, bah, je pense à ça, voilà, à chaque fois.
Génial. Moi, ça m'a fait penser à Black Panther, tu vois. Un peu à la bande-son qu'avait fait Kendrick Lamar avec son label, tu vois. Et il y avait un ou deux morceaux, hein, un petit peu, je trouve, avec des rythmiques très...
Ouais.
Tu vois, très animal comme ça. Et voilà, du coup, c'est, moi, ça m'a, j'ai effectivement plus. Tu vois, j'attendais soit un vocal, soit quelque chose. Et c'est vrai que vu que ça reste quand même relativement sur la même tonalité, tu vois, ça m'a, voilà, c'est ça du coup que ça m'évoque à la première écoute.
Et c'est une musique de DJ aussi, hein,
ouais,
clairement.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est... Que tu vas qui va servir à faire une transition entre un track ou un autre.
Et puis ça te met ça dans une vibe.
Ça, je suis d'accord.
Voilà, toi, tu dis direct musique de film, et c'est exactement ce genre de morceau. Desquels moi personnellement je suis friande, et je pense que toi aussi Louise, de se dire ok, ça c'est le moment où je vais arriver, et là tu les mets dans une vibe vraiment, et les gens deviennent un peu fous, ça te met en transe en fait, hein, c'est de la musique de transe clairement, c'est génial.
Oui, c'est ça, et je sais pas, ou peut-être instinctivement là dit comme ça, tu sais, qui peut, qui prend le spectateur et va l'amener jusqu'à peut-être une explosion sur un track qui envoie et qui est encore peut-être un cran au-dessus.
Bah en fait, je sais pas, moi là, d'un autre EP de Nick Leon, là il y a pas longtemps, j'ai fait un mix pour Radio Béguin, qui est une radio à Lyon, et j'ai fait mes premiers blends dessus. Et donc il y a notamment un blend que j'ai fait avec un morceau de Santo avec Bad Ney que j'avais ramené il y a pas très longtemps, enfin que j'ai ramené Santo pas du tout, mais j'en ai parlé il y a pas très longtemps dans le son d'après de Santo et de ce morceau avec Bad Ney, et je l'ai mixé avec un morceau de Nick Leon, et franchement j'étais trop contente parce que c'est à peu près le même BPM et tout, et donc ça rappe un peu, ça kick un peu vénère, et j'étais là genre oh, je vais enlever un peu des bases de ce morceau là comme ça je vais ramener le Nick Leon derrière et tout, et vraiment j'étais trop contente, j'ai mis Mio Q et tout, j'étais là c'est super.
Ça fonctionne,
genre, ouais, et j'étais contente, et du coup là je réécoutais mon mix, j'étais là ouais vraiment c'est vraiment bien ce moment, je suis contente de moi et tout.
C'est magique ce moment quand tu trouves le bon enchaînement,
le bon moment, voilà. Enfin, c'est genre dans le morceau, c'est trop cool. Et donc du coup, Bitter Babe et Nick Leon, donc je vous ai dit, tous les deux ils se sont rencontrés à Miami, ils sont sur de la scène là-bas, donc j'imagine qu'il y a aussi un peu des influences de Miami Bass dans tout ce qui rassemble tous les deux. J'avoue qu'il n'y a pas énormément d'infos sur eux sur les internets, mais par contre, j'ai trouvé quelques articles sur leur maxi, et je me suis vraiment dit que les médias musiques étaient vraiment très spécifiques et trop avancés pour le commun des mortels, en fait. Parce que, genre, les journalistes, ils écrivent des noms de genres musicaux comme si toute la planète savait exactement de quoi il s'agissait, alors qu'une personne moyenne dans le monde, tu lui demandes de qu'est-ce que t'écoutes, elle répond de tout. Non, je ne pense pas qu'on écoute de tout, puisque par exemple, moi, je savais pas qu'en écoutant Nick Leon et Bitter Babe, j'écoutais des morceaux inspirés à la fois de la guaracha, de la changa tuki et du Dutch bubbling. Vous non plus, j'imagine, car non, moi...
Mais voilà. Pareil, moi j'ai découvert la changa tuki il y a pas très longtemps.
Ouais. Et bah, c'est alors.
C'est que la changa tuki.
Bah voilà, justement, je me suis dit, je vais remettre un peu de contexte dans ces genres musicaux. Alors, je suis pas historienne de la musique, donc excusez-moi si je fais des trucs un peu hors contexte historique, etc. Mais on va essayer de faire au plus rapide parce qu'on n'a pas 8h30 pour chaque genre. Mais donc, la guaracha, a priori, c'est un genre musical cubain à la base qui s'est exporté un peu en Amérique latine et notamment en Colombie. Aujourd'hui, si je vous dis guaracha, il y a 2-3 tubes qui se sont exportés et qui sont vraiment genre très très connus en ce moment, notamment le Pepas de Farruko. Je vous mettrai un extrait maintenant. Ou un morceau qui s'appelle Baila Conmigo de Davy. Et donc, c'est des rythmiques assez percussives, plutôt particulières, et des sons de cuivre enregistrés, mais plutôt sur un logiciel de MAO que vraiment des vraies trompettes, tu vois. Donc, ça se sent que ça a été appuyé sur une touche.
Un logiciel de MAO pour les non-initiés.
Un logiciel de production musicale.
Très bien.
Musique assistée par ordinateur. Voilà, et donc c'est avec des effets un peu vénères dessus et tout, donc c'est très particulier, moi j'aime beaucoup, mais donc du coup j'ai été, je me suis dit guaracha c'est quoi, puis j'ai écouté, j'ai fait ah mais je connais en fait, juste genre je suis incapable de mais mettre un
nom
dessus.
T'avais pas les mots sur le,
exactement,
sur le, voilà, sur
la sonorité. Et la changa tuki, alors ça heureusement, je suis abonnée au compte Instagram Murder on the Dance Floor de la DJ Mystique, qui est une autre résidence de Rins France, et qui en a fait un post Instagram il y a quelques mois, et donc c'est une musique de club originaire du Venezuela, qui est influencée par l'eurodance, la techno et la house des années 80-90, et qui mélange à ça des genres comme le merengue, le reggaeton, le soca, etc., etc. C'est aussi appelé la raptor house, et c'est un mouvement qui est bien moins populaire que la guaracha aujourd'hui, en tout cas
en cherchant des playlists et tout, j'étais là genre oui, bon, ça pour le coup c'est un peu moins un peu moins simple à trouver, mais de ce que j'ai écouté, je dirais que c'est un peu caractérisé par des synthés un peu agressifs qui peuvent sonner un peu comme des lasers de jeux vidéo, tu vois, genre qui font des notes assez courtes et percussives. Et t'as lié à ça des rythmiques aux alentours de 140-150 BPM, et t'as une petite idée de ce que c'est la Changa Tuki, quoi. Et donc je vous invite à écouter, il y a un épisode de Murder on the Dance Floor, donc qui est une émission de Rinse, 100% de Changa Tuki, d'un DJ qui s'appelle France Wax. Donc ça vous fera une idée un peu de ce qu'est ce genre musical. Et le Dutch Bubbling, pareil, c'est vraiment des trucs où je suis en mode genre, j'aurais entendu dans ma vie, j'aurais jamais dit que c'était ça, mais maintenant je sais. À la fin des années 80, en fait, il y a un DJ néerlandais, donc, qui s'appelle DJ Mote, je ne sais pas comment ça se prononce, qui joue un track de dancehall à la mauvaise vitesse en fait sur sa platine vinyle, donc il joue un 33 tours en 45 tours. Donc ça va plus vite, et la réaction du public est immédiate, ça devient un genre musical à part entière en fait, de créer des prods avec, très influencés par la dancehall, avec un rythme plus rapide, et souvent des vocaux assez pitchés, aigus, qui du coup ressortent souvent des samples de tracks dancehall de l'époque. Et j'ai envie de comparer ça un peu à la jungle, je trouve que dans les bases j'ai l'impression qu'il y a un peu les mêmes trucs quoi. Donc voilà, donc moi j'étais là, putain mais c'est fou en fait, genre j'écoute un truc qui est même pas catégorisé comme l'un de ces trois genres musicaux, tu vois, derrière eux, enfin tu vois, je les trouve dans une playlist qui s'appelle Deep Reggaeton, Reggaeton Industriel, du coup je suis en mode, je ne sais plus, les genres musicaux c'est trop compliqué pour moi. Et en même temps, depuis tout à l'heure, tu vois, je t'entends parler et tout, et à chaque fois tu te dis des genres musicaux, je suis en mode, je crois que vaguement je vois ce que c'est, mais je suis pas trop sûre. Et du coup je me dis, comment est-ce que t'arrives à t'y retrouver dans les genres musicaux? Moi c'est un truc qui me fascine quoi.
Tu t'y retrouves pas?
Ouais.
Non mais en fait c'est ça qui est génial, tu vois, c'est que moi pareil je découvre encore des trucs et je suis là genre mais en fait
c'est sans
voilà
fin.
C'est sans fin, mais c'est ça qui est intéressant, c'est pas pareil, c'est comme le DJing, donc il y en a qui se font des petites notes, voilà, mais ouais. On n'est pas tous journalistes musicaux, donc en fait ça pareil c'est un peu
c'est peut-être pas au final on le est, plus important
on est, ouais on n'est ouais. pas obligé d'avoir tous une culture musicale où on sait exactement genre voilà ce que c'est la Changa Tuki, ou ouais. tu vois, de se dire c'est quoi l'avant-garde hyper pop post je ne sais plus quoi, bah en fait voilà.
Ouais, c'est juste du feeling, quoi.
Ouais, au voilà. Final. Et puis après, oui, c'est intéressant des fois de nommer les choses parce que ça crée des nouvelles choses. Mais
ouais.
Et
je pense que c'est aussi
un côté historique, tu
ouais,
vois, c'est hyper intéressant. Donc, mais faut pas s'en faire un
cheval de bataille, quoi.
Ouais, bien
oui,
sûr.
Un cheval de bataille ou un complexe, tu vois, de se dire ah oui, merde, et moi je.
Ouais, bien sûr. Mais en fait, tu vois, moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est plutôt dans l'aspect des médias musiques qui sont censés, je pense, éduquer à la musique, qui ont du coup un espèce de truc à l'inverse complètement opaque de quand tu lis, enfin moi je me souviens que ado je lisais les chroniques de Pitchfork et j'étais là, je finissais, non le mieux c'était quand je bossais en label de folk, je lisais Magic RPM à l'époque, qui était donc un magazine assez connu dans ce milieu là, dans le milieu de la folk, de la musique un peu alternative et tout, et donc tu lis une chronique. Et parfois, moi, je finissais de lire la chronique, j'étais là, ça me dit pas plus qu'est-ce que c'est la musique. Je l'ai pas compris, il y a pas de.
Pour que ça soit en anglais, du coup, ça rajoute la difficulté supplémentaire, tu fais wow.
Exactement. Et donc, du coup, moi, je trouve ça un peu dommage, tu vois, d'arriver à ce truc-là où la musique est plus accessible d'une certaine manière, alors que t'es le média qui est censé la rendre accessible. Moi, ça m'attriste un peu. Et du coup, je me suis dit, mais en programmation à la machine, comment est-ce que vous communiquez derrière sur, par exemple, tu vois, genre une Cherelle ? Parce que Cherelle, elle est. Je pense qu'elle est reconnue dans le milieu des musiques électroniques. Les gens qui vraiment kiffent la jungle, la drum and bass, ils vont voir qui c'est et tout. Mais genre pour le grand public, parce que moi, j'ai un peu à cœur de ça, et je pense que c'est un peu un truc qu'on partage dans le son d'après avec Clément, c'est de rendre aussi les musiques que pas hyper accessibles, un peu plus accessibles, tu vois. Et donc, comment est-ce que tu fais quand t'es un club qui programme des gens qui sont des espèces d'hybrides musicaux,
un peu plus nichés,
pour communiquer autour d'eux, quoi.
Tu n'échappes pas au grand nom, au grand style, genre tu vas mettre techno, tu vois.
Ouais.
Mais après, tu vas développer un petit peu plus. Donc tu mets techno et après, tu dis drum and bass. Voilà.
Ouais, quelques influences comme ça.
Ouais, voilà, exactement. Donc c'est tout l'art et la manière d'écrire des biographies d'artistes.
Ouais.
Et on travaille pas mal là-dessus avec l'équipe promo, justement, pour essayer de faire des choses quand même qui soient un peu simples. Et puis après, bien évidemment, on est référencé dans Resident Advisor,
ouais.
Et qui est un grand média de musique électronique, qui fait aussi billetterie. voilà. Ouais. Et après, sur Dice, on met quelques styles, mais on met bien évidemment toujours musique électronique.
Ouais.
Voilà. Donc,
oui, qui est le grand parapluie, en fait.
Après, c'est le propre, tu vois, d'une communauté. C'est-à-dire que tu vas, t'as envie d'avoir des gens de l'extérieur et du grand public, mais t'as aussi envie d'avoir le cœur de la communauté qui, lui, saura de quoi tu parles quand tu dis drum and bass. Parce que c'est sûr que si tu dis à quelqu'un, ça va être de la techno et il arrive devant Cherelle, ça risque pas d'être, tu vois.
Il peut pas être ravi, ouais.
Et ouais, il va pas s'amuser. Donc, en fait, faut être aussi un peu, c'est pas honnête, tu vois, mais faut être aussi un peu transparent sur, sur les styles un peu poussés. Et
si ça parle pas aux gens comme ça, c'est que ça risque de pas leur parler aussi.
Exactement.
Sur
scène. Voilà.
Mais pas forcément, tu vois.
Non, mais après, dans ce cas-là, t'es dans une optique de curiosité.
Oui,
tu vois ce que je veux dire.
C'est, t'es pas... J'allais me prendre en exemple, donc d'accord.
Tu t'arrives pas avec, du coup, une idée hyper préconçue et tu te prends le spectacle et voilà.
Bien sûr. Et après, c'est sûr que c'est le côté cool d'avoir deux espaces.
Oui, oui, bien sûr.
D'avoir deux salles, c'est que t'as vraiment ce truc d'ambulation. Si à un moment donné ça te plaît pas ou t'en es un peu lassé, tu vas en haut, tu changes d'ambiance.
Bien sûr. Je vois l'heure qui tourne je me dis qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. J'avais encore des questions. Je voulais qu'on parle de Rosalia parce que Nick Leon, il est crédité sur l'album Motomami. Je me suis dit, tain, ça va être super, ça va être un
nom. Ouais, on n'aura pas le temps. En tout cas,
on n'aura pas le temps de faire tout ça car Anaïs a un programme chargé, comme vous l'avez deviné, toutes ses casquettes. J'y pense, Clément, mais tu n'as pas fait tes recommandations pour prolonger l'écoute si tu veux les faire.
C'est pas très grave, je pense que
on les mettra dans les notes du podcast.
Ça sera dans les notes, ça sera surtout dans les posts Instagram, c'est
oui,
pas.
Dans les posts
Instagram. Je pense pour ce format-là, c'est pas très grave.
Très bien, ok. Eh bien, je vais faire pareil de mon côté.
T'as très bien vendu la mixtape, donc déjà, c'est.
Ouais, grave. Je vous mettrai de mon côté pareil les pour prolonger l'écoute dans les notes de ce podcast et bien sûr sur le compte Instagram du son d'après. Anaïs, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'était trop chouette de te recevoir.
Merci.
C'est passé vite, hein.
J'espère que ça t'a plu.
C'était vraiment très chouette de parler de tout ça avec vous. Moi, je tenais à vous inviter à la prochaine Perreo Supremo.
Ah, avec plaisir.
Allez.
Ouais, c'est le 23 octobre.
Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux pitcher rapidement aux gens quand même ce que c'est exactement? Parce que moi, je t'ai présenté, mais c'est vrai qu'au moins que les gens savent exactement ce qui les attend.
Ça fera la transition. Enfin,
nous aussi, d'ailleurs, avec moi, parce que du coup, je t'invite.
Ça fera la transition avec Nick Leon. Mais ouais, Perreo Supremo, c'est un projet qu'on a créé avec Carla Naté, qui est prof de danse reggaeton, qui vient du Chili. Et qui a grandi dans une école française aussi, comme moi. J'ai grandi en Espagne, école française, c'est marrant. On s'est rencontrés par hasard, vraiment, et on a décidé de créer ce projet. Et en gros, Perreo Supremo, c'est des dimanches à la machine où tu apprends à danser. C'est-à-dire qu'il y a deux workshops reggaeton. Mm-hmm. Donc là, ce sera Carla et un danseur qui s'appelle Jerky Jesse, qui lui fera un cours de hip-hop, mais sur du reggaeton. Et après, il y a toujours un hangueo. Hangueo, ça vient de l'anglais hangout. Et c'est c'est un mot qui vient de Porto Rico, de la déformation du coup espagnol et anglais. Et c'est vraiment genre traîner avec tes potes dans la rue et danser et faire des jams de danse autour du reggaeton, quoi. Donc, on fait à chaque fois un hangueo. Il n'y a pas d'esprit battle, c'est plus un espèce de cercle de danse bienveillant où en gros, tu mets en pratique les derniers moves après. Juste avant et du coup moi je joue et pour l'occasion il y aura le deuxième DJ résident de Perreo Supremo qui est Azamat B aussi résident sur Rins et on va vous ambiancer fort, voilà. Donc trop c'est bien. De 14h à 20h
et c'est le 23, on est d'accord,
c'est le 23 octobre. Tout à
parfait.
Fait okay. Vous pouvez retrouver les places sur Dice.
Et justement, du coup, dans la continuité, mais là, tu parlais de Perreo Supremo, c'est quoi sinon l'actualité que tu voudrais partager éventuellement là, dans les semaines, enfin jours et semaines à venir?
Alors, l'actualité, je vais vous parler un petit peu de la machine. On a de belles soirées qui arrivent. On a notamment un takeover de Fabrique. Donc, Fabrique, le mythique club londonien qu'on avait tous vu passer parce que du coup, il s'était fait fermer par les autorités. Donc ils prennent en main la machine le 27 et 28 octobre prochain.
Trop bien.
Ça va être vraiment la folie. Je vous invite à venir.
Trop cool. Bah merci beaucoup Anaïs.
Avant de nous quitter, nous on a toujours la petite tradition et nos petites recommandations de fin.
Tout à fait.
Que Louise, tu vas nous exprimer
avec avec plaisir et joie, bien sûr. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé Le Son d'après, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Twitter @leSonDaprès. Si vous avez kiffé Anaïs, n'hésitez pas à la retrouver sur ses réseaux sociaux qui sont dans
dans les notes du podcast. Et puis, vous pouvez aussi, si ça vous a plu, vous abonner à ce podcast. Et si ça vous a encore plus plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. N'hésitez pas. Un petit commentaire, ça fait plaisir. Et en parler autour de vous. Voilà,
si voilà c'est souvent comme ça que ça se... voilà, que le message passe et que ça donne envie d'écouter surtout.
Et puis, si jamais vous avez des genres musicaux, on va essayer de mettre les genres musicaux dans les notes du podcast, mais genre des noms d'artistes qu'on a dit, que vous n'avez pas saisi, etc. C'est tout dans les notes du podcast, donc en description du podcast. Et puis, il y a un autre truc que j'ai oublié.
Et les morceaux que vous pouvez retrouver, les 4 morceaux du coup, dont les 2 morceaux d'Anaïs, voilà, que vous pourrez retrouver dans la playlist du
son
d'après qui est mise à jour en même temps que l'épisode le lundi.
Avant de te relâcher dans la nature et à ton agenda chargé, est-ce que je peux te poser une dernière question ?
Bien évidemment.
Qui est, une fois que tu vas sortir de cet enregistrement, quel sera le son d'après que tu vas écouter, que tu vas mettre dans tes oreilles en partant d'ici ?
Là, tout de suite, j'en ai un qui me vient, qui n'est pas une nouveauté, mais c'est Fiebre de Bad Gal.
Trop bien, super.
Prod incroyable, je crois que c'est son premier morceau. Okay. C'était vraiment un baby, elle a lancé ça sur YouTube, ça a cartonné, mais allez voir le clip, genre c'est produit avec ses 3 potes.
3 centimes.
Ouais. C'est incroyable.
Trop bien, ok. Bah, ce sera le morceau de clôture de cet épisode.
Ça me plaît beaucoup.
Trop cool. Bah, merci beaucoup Anaïs.
Merci à vous.
Et puis nous, on se dit à dans
deux semaines. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Ya veo el brillo en tus ojos. Es un placer conocerte. Quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte. El número uno, la que más te pega.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.